Alors, je vais parler des collaborations de recherche. On met beaucoup de choses derrière les collaborations de recherche. On a un peu tout, en fait. Mais une collaboration, c'est très défini. C'est un processus par lequel des personnes ont travaillé ensemble sur un même objectif. On travaille sur un même objectif, mais ce qu'il est important de savoir, c'est que les intérêts de chacun, souvent, sont très différents. Quand vous travaillez avec un industriel, son intérêt ne va pas du tout être le vôtre. Mais pour autant, l'objectif est le même. Ce qui est très important dans une collaboration, c'est que chacun mette des moyens ensemble. C'est pas que vous qui en mettez et le partenaire il met un peu de sous donc ça suffit. C'est pas du tout le but. Le but c'est qu'en face le partenaire il travaille aussi avec vous sur le projet. Et c'est vraiment de la recherche, c'est pas comme une prestation, c'est vraiment une activité de recherche et les résultats sont partagés équitablement, normalement. Je reviendrai dessus un peu plus tard. Pour mettre en place une collaboration, souvent on part comme ça un peu à la va-vite, mais il y a pas mal de cas où il est important de passer par l'accord de confidentialité. On n'y pense pas, on dit que ce qu'on fait, effectivement, il n'y a pas de secret d'État, ce qui est vrai dans l'absolu, il n'y en a pas. Néanmoins, le partenaire en face peut toujours récupérer des idées que vous avez, aller les faire avec d'autres. Un accord de confidentialité, ça protège les informations qui vont être identifiées comme confidentielles lors des échanges entre les parties. Donc les parties, elles s'engagent à ne pas les divulguer, à ne pas les exploiter. Ça a une durée, évidemment, ce n'est pas à vie. Et c'est souvent en amont la collaboration, c'est au début des discussions. Et ça porte que sur les échanges des informations. On ne prête pas d'objets, on ne laisse pas des documents, ou alors si on les laisse, il faut l'écrire à l'intérieur, c'est pareil. Ça s'adapte aux besoins du projet et de ce que vous avez envie de mettre en place. Ça ne veut pas dire que la collaboration va avoir lieu obligatoirement, ça ne vous engage pas. Ça engage juste chacun à ne pas divulguer ce qui va être dit. Ça permet essentiellement aux parties de parler très librement. Quand vous travaillez avec un industriel ou même avec une collectivité ou qu'importe, si le sujet est spécifique, il va souvent se restreindre à ne pas dire tout ou à en dire beaucoup moins que ce qu'il souhaiterait parce qu'il ne sait pas si vous n'allez pas le répéter. Et ça se met en place très souvent. Ils n'ont pas l'habitude qu'on le propose, alors pour autant, quand on le fait, ça choque personne. Les industriels, eux, le demandent quand ils viennent vers nous. Donc, c'est important qu'on puisse le faire. Ça vous permet de lui communiquer beaucoup de choses sans que ce soit pris et réutilisé sans vous. Donc, il faut vraiment le mettre en place avant les visites chez le partenaire. Donc, on le signe au début des échanges avec les tiers. C'est impératif. On définit bien avec vous les informations qui sont confidentielles et ça sécurise les échanges. Par contre, il faut veiller à s'engager que sur ce qu'on est capable de respecter. C'est important parce qu'ils peuvent vous demander d'en mettre plus tout en sachant qu'on ne pourra pas le faire. On ne dit pas oui juste parce que le partenaire en face est sympa, quoi. Et c'est le représentant de l'établissement qui signe. Un directeur de laboratoire, non. Un laboratoire, ça n'existe pas juridiquement. La seule personne qui peut engager un établissement, c'est le président. Donc vous, si vous le signez, cet accord, ça n'engage que vous, même pas le laboratoire, juste vous en tant qu'individu. Donc pour que vous ayez le droit d'en parler entre vous au sein du laboratoire, il faut que le président signe cet accord. Alors là, je vous ai fait un déroulement d'un accord de confidentialité pour que vous voyez où ça se situe exactement dans un contact avec un partenaire. Et c'est vraiment très, très en amont. C'est-à-dire que vous prenez le contact avec un partenaire éventuel. Si vous sentez que ça prend, que les négociations peuvent aboutir, avant d'en dire trop sur ce que vous souhaitez faire et sur le détail des choses que vous faites, il faut penser à demander à le mettre en place. C'est très rapide, hein. C'est un document qui est assez standard. Et c'est fait très rapidement. Parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas trop de questions. Enfin, il n'y a pas de questions sur l'exploitation, sur la suite. Donc, vraiment, quand c'est mis en amont, c'est assez rapide. Alors, une fois que vous avez mis en place cet accord, vous allez commencer à définir la collaboration. D'un point de vue très scientifique, évidemment. On commence par là. C'est important de définir le contenu ensemble, parce qu'il y a vraiment cette notion de réciprocité et de travail ensemble. Et quand on parle de définir le projet, c'est pas juste ce que vous souhaiteriez faire, c'est les finalités et les attentes de chacun, C'est pas vous qui amenez le projet entier, vous le faites avec le partenaire en face. C'est important que ce soit fait vraiment ensemble. Il y a beaucoup de cas où c'est pas ça. Vous arrivez avec une idée, un projet, vous le déposez, il est d'accord, c'est bon, je pars là-dessus. Non, c'est vraiment l'idée de le faire ensemble. Donc, c'est important de définir les finalités et les attentes de chacun. Ensuite, le projet de recherche, ce que vous allez faire, ce que vous souhaitez faire et mettre en place. Parce que souvent, ce que vous faites n'est pas du tout ce que le partenaire a en tête et inversement. Les livrables, également, parce qu'on n'a pas là non plus les mêmes attentes. Et les délais. Là, c'est pareil, on s'engage que sur des choses qu'on peut faire. Et les engagements sont réciproques, c'est pas vous qui faites et la personne en face qui dit bah, « je vous ai demandé de le faire, c'est sympa, je vous donne un petit peu de sous et c'est bon ». Ça, c'est pas une collaboration. Ça n'en sera pas une. C'est une prestation qui est déguisée et ça lui évite de payer cher. En gros. Et le travail doit être en cohérence avec les moyens que chacun va mettre. Si vous dites « on va passer 6 mois de travail sur ça avec un thésard ou un contractuel ou un stagiaire » et qu'en face vous dites que vous allez faire un travail énorme, c'est vous qui passerez énormément de temps et c'est pas envisageable ça non plus. C'est-à-dire qu'il faut être en cohérence avec ce qu'on propose de faire. Et si vous voyez qu'à un moment ça part trop loin, que ce qu'on vous demande est trop important par rapport à ce que l'autre met en face, faut aussi se dire que stop, on arrête quoi. C'est pas parce que le partenaire est sympa qu'on a vraiment envie de travailler avec une entreprise parce qu'ils sont d'accord qu'on y va. Alors, faut aussi qu'on pense dès le début à savoir ce qu'on veut faire des résultats de recherche. On se dit souvent, bah super, on aura fait une petite étude, c'est sympa. Mais on va rendre un livrable et c'est fini. Mais ce qui est fait dans un contrat de collaboration, c'est vraiment de la recherche. Donc vous passez souvent du temps à élaborer des méthodes ou à faire des rapports qui peuvent être utilisés et réutilisés par d'autres après. Et c'est important de savoir ce que chacun veut en faire. Donc, il faut qu'on réfléchisse ensemble à ce qui est attendu des résultats. Le partenaire sait souvent. Hein. Si c'est un industriel, ou même une collectivité, elle sait très très bien pourquoi elle travaille avec vous. À qui vont servir ces résultats de recherche? C'est pareil, souvent on sait très bien. Est-ce que d'autres vont les réutiliser, les commercialiser? C'est important d'en parler au début, parce que c'est ce qui bloque très souvent quand on fait les contrats après. Donc, c'est important que vous sachiez à peu près, que vous soyez OK avec ce que la personne vous propose en face et que vous soumettiez des idées. Et là, il ne faut pas hésiter à faire appel à des services, aux services des universités ou CNRS, si vous dépendez du CNRS, compétents pour ces choses-là. C'est les services de partenariat et c'est vrai qu'on peut agir très tôt, si vous le souhaitez, ou vous conseillez avant que vous alliez en rencontre, tout peut se faire en fait. C'est vraiment juste important d'en parler en amont. Une fois que vous avez fait ce travail, c'est très simple pour nous après de le formaliser. Faire un contrat de collaboration, c'est très facile si vous avez fait tout le travail amont. On sait pourquoi vous travaillez ensemble, les moyens que chacun vont mettre, la durée du projet et l'exploitation qui va se faire après des résultats. Donc après, c'est très facile de le mettre en forme et c'est fait assez rapidement. Si par contre, c'est pas défini très clairement, qu'on arrive après, ça va être très très long pour nous de revenir vers le partenaire pour essayer de mettre les choses plus clairement. Donc c'est important que le travail soit vraiment fait avec le partenaire ensemble, quoi, en collaboration, vraiment. Donc après, on met en place un contrat. Le contrat, ça retranscrit les volontés de chacun. On va pas au-delà de ça. Hein. C'est pas les termes sont barbares parfois à l'intérieur, mais on finit simplement par écrire ce que vous souhaitez faire. Donc on s'adapte vraiment au partenariat. On essaye de trouver des solutions quand ça peut être alambiqué ou ça peut être des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, des prêts de données ou un travail sur un site internet, parce que c'est des cas assez spécifiques avec des lois assez spécifiques, mais on trouve des solutions. Et tous les éléments qu'on met à l'intérieur font l'objet d'une négociation. Chez le partenaire, souvent, c'est comme chez nous, c'est-à-dire que vous allez voir une personne, mais la personne qui négocie avec nous, c'est pas la même que celle qui va faire le travail de recherche, très fréquemment. Mais si le travail que vous souhaitez faire est clair, c'est pas un problème pour nous de négocier après. Et le contrat est équilibré lorsque chacun y trouve son compte. Ça aussi, c'est très important. Il ne faut pas que vous ayez l'impression de perdre du temps, de perdre de l'argent, que ça coûte au laboratoire ou que ça ne vous apporte pas assez au niveau de la recherche. Et le partenaire, pareil. C'est important que ce soit équilibré. On sait qu'il y a des cas où ce n'est pas forcément le cas. Donc, il faut trouver à chaque fois un équilibre, que ce soit ou dans le financier ou dans le scientifique. Et les phases de négociation peuvent être très variables. Ça peut prendre un mois comme un an. Ça dépend vraiment du partenaire en face, sa réactivité et de la structure. Avec des structures importantes, ils ont beaucoup de juristes, mais ils ont beaucoup de principes auxquels il est très difficile parfois de déroger, mais il y a des principes pour lesquels nous, on n'a pas le droit de signer, par exemple. On ne s'engage pas sur certaines choses, donc ça peut être très très long. Donc, dans ce contrat, on détaille des choses comme l'objet et le domaine de collaboration, c'est-à-dire le sujet sur lequel vous allez intervenir, les moyens que chacun va mettre en œuvre. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on détaille ce que l'université, elle met en œuvre et les sous que le partenaire, il met en face. Mais dans l'absolu, c'est pas ça qu'il faudrait faire. C'est de savoir ce que le partenaire va mettre en face aussi au niveau du temps de travail. Il faudrait qu'il y passe du temps avec vous, ne serait-ce que des réunions, des mises au point, des travaux sur le projet. Il faut que vraiment ce soit fait ensemble et on arrive à un équilibre quand on voit que les apports de chacun sont à peu près égaux. En temps, ça peut être en temps, en mise à disposition de locaux, de bâtiments, de terrain pour faire des études et de financement pour le coup. Dans le contrat, on a aussi un aspect très pratique qui est le suivi du projet. Comment vous allez faire des points, voir si ça fonctionne ou pas, parce que des fois ça ne fonctionne pas. Comment vous allez faire des remises à jour, comment la gouvernance va se faire, qui va organiser ces choses-là. On parle à l'intérieur aussi de la confidentialité et publication, parce que le but pour vous, souvent, c'est de publier, ce qui s'entend très bien, mais c'est pas toujours l'accord du partenaire, hein, pour être d'accord. Et la confidentialité aussi est un point assez important. Il y a des choses que vous leur ferez part qu'ils n'auront pas le droit de réutiliser, et inversement. Ce n'est pas parce que vous travaillez avec que tout ce que vous faites leur appartient. Ce n'est pas du tout le but. Et on parle aussi de la propriété des résultats, de leur protection et de leur exploitation. On dit souvent que nous, on n'exploite pas, ce qui est souvent le cas. Mais si eux le font, on doit avoir un retour financier pour l'université et le laboratoire en l'occurrence. Parce qu'ils vont exploiter des choses que vous avez fait ensemble. Vous êtes propriétaire de ces résultats autant que eux le sont. Et c'est l'aspect souvent le plus long à négocier, honnêtement. Donc, le principe d'une collaboration, c'est que les résultats sont partagés. Qu'importe qu'on fasse, c'est partagé. Il y a des cas où le partenaire doit être propriétaire des résultats. Dans ce cas-là, on peut y déroger si le contexte, effectivement, s'y prête. Et si on négocie sur d'autres aspects. Financiers entre autres, c'est-à-dire qu'ils payent plus que ce qui est au départ le cas. Par contre, c'est vraiment effectivement du cas par cas, je ne peux pas vous dire que s'ils payent un peu plus, on lui laisse les résultats. Ce n'est pas une généralité, il faut vraiment y penser à chaque fois. Après, il y a les clauses sur l'exploitation. Je sais qu'en sciences humaines, on s'en sent très très loin, l'exploitation des résultats, je sais. C'est pas vrai, parce que si vous mettez en place des méthodes pour des entretiens, pour des analyses ou quoi que ce soit, si le partenaire se dit bah super, je vais le réutiliser dans le quotidien pour passer, pour faire des tests ou pour faire évoluer des structures, et qu'il le facture ça en prestation à d'autres, vous devez avoir un retour sur ça, parce que ce travail c'est vous qui l'avez fait. Avec lui, ok, mais vous l'avez fait aussi. Donc, il y a beaucoup de façons d'envisager le retour, soit s'il fait un certain nombre de ventes ou de prestations avec cet outil-là, vous avez un pourcentage. Souvent, c'est même ce qu'on fait le plus. Soit à chaque vente de l'outil, par exemple, ou d'une méthode, vous percevez un cash direct au laboratoire. Ça se fait en sciences dures, parce que c'est des procédés, voilà. Mais en SHS, il faut que ça se fasse aussi, parce que c'est des choses qui sont faites. mais auxquels on ne fait pas forcément attention. Non, c'est vrai, non?
Ah non, mais nous, on n'a rien à vendre, donc
personne n'a d'argent. Mais vous, c'est vrai que non, souvent, on n'a rien à vendre, mais c'est eux qui vont trouver un intérêt. S'ils travaillent avec vous dans une collaboration, c'est qu'ils ont un intérêt. Sinon, ils ne le feraient pas.
Mais non, ils ne le font pas.
Et ouais. Après, ça dépend des domaines. Avec vous, ils le font, bien plus.
Ouais, avec vous, ils le font, mais on peut effectivement se retrouver dans les cas de figure où on se dit qu'on n'a rien à vendre et on se rend compte qu'en fait, il y a des choses qui sont valorisables, quoi.
Et qui intéressent,
mais par voilà. Contre, moi, je sais. Ce qu'on ne sait pas faire, c'est comment évaluer ça. Comment l'évaluer, comment chiffrer, comment passer les accords en question, quoi.
Exactement. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à nous voir avant et bien nous expliquer le projet. Parce que nous, si on ne connaît pas le projet, on a l'impression que dans les services, on se dit, ils sont administratifs, ils s'en fichent. C'est pas qu'on s'en fiche, c'est que si on ne le connaît pas, on ne peut pas vous aider, quoi. C'est pas une généralité, on ne peut pas dire si c'est ça, on applique ça. Non. Il faut vraiment qu'on soit au fait du projet, de ce que vous faites, de ce que le partenaire fait. Comme ça, on sait ce qu'il veut faire des résultats. Et ça se fait, après, bien, ça rentre dans les mœurs, hein. En sciences dures, c'est fait, donc chez nous, ça y va petit à petit aussi, quoi. Bon, il arrive aussi des fois que les évaluations soient pas faciles à faire au niveau des retombées financières. Par exemple, si ça augmente la fréquentation d'un site X ou Y, ils vont augmenter le nombre de ventes de places, par exemple, mais c'est très difficile à dire et à évaluer. Donc, on joue sur d'autres choses, sur de la com, sur des partenariats à venir. On leur demande de faire beaucoup de communication, de faire passer les informations qu'on leur envoie. Après, il y a beaucoup de choses qu'on peut envisager autres que juste des ventes. Alors, oui, c'est important que pour définir une collaboration, on définisse ce qui n'est pas une collaboration. Souvent, on se dit que parce qu'on parle avec un partenaire économique, socio-économique, une institution autre, une entreprise, c'est une collaboration. Non, pas du tout. Si on prend l'exemple de la prestation. La prestation, c'est une opération effectuée par une partie qui rend un service individualisé à une autre. Et on met en œuvre un procédé technique qui est déjà conçu et éprouvé. Et on obtient un résultat prédéfini. Comme en psychologie, puisque Brigitte est en psychologie, il y a des institutions qui demandent des études sur le bien-être au travail, par exemple. Ce n'est pas une collaboration. Aucunement. Même si nous, on y a un intérêt parce qu'on pratique notre savoir-faire. C'est un savoir-faire, c'est pas de la recherche. On met en place le savoir-faire pour leur rendre une étude. C'est pas du tout une collaboration. C'est une commande à laquelle on répond. Il n'y a pas de travail ensemble. Voilà, c'est vraiment pas de la recherche. Normalement, il n'y a pas d'activité inventive sur une prestation. Absolument pas. Jamais. C'est une réponse à une demande très précise du partenaire. Enfin, du partenaire, du... celui qui passe une commande. Et la différence, une des différences importantes des prestations, c'est que les résultats de la recherche, enfin de la prestation, appartiennent à la personne qui passe une commande. Quand vous demandez à une personne de construire une maison pour vous, vous le payez, la maison vous appartient, vous ne partagez pas la maison. C'est pareil, le principe est le même. Ça appartient à l'autre. Donc la publication, vous ne pouvez pas en faire. Ou beaucoup moins, sans citer cette étude et la manière dont elle est faite. Une autre différence aussi, c'est la manière dont on chiffre la prestation. Une prestation, on est soumis au droit de la concurrence. On n'a pas le droit d'y déroger. Donc, si vous me dites que vous faites une prestation sur 6 mois sur une étude d'un quartier, par exemple, et vous facturez ça que 800 euros parce que j'avais envie de les donner, je vais vous dire que c'est limite. Et je vais être obligée de dire au président de lui écrire sur le petit contrat que je le mets en signature parce que nous, on n'est pas là pour bloquer ces contrats-là, mais ça ne correspond pas au droit de la concurrence. C'est-à-dire que s'il y a un contrôle sur cette prestation, ce qui peut avoir lieu, il vérifie et on paye des amendes par la suite sur les prestations. Donc, c'est important de facturer ça de la même façon qu'une entreprise le fait, qu'importe la prestation. Vraiment, il faut la calculer au coût complet. Et souvent, on a la remarque que oui, mais si on fait ça, ils vont pas travailler avec nous. Mais le prix dans le privé est quand même très élevé et il faut s'en rendre compte. Donc, s'ils ne travaillent pas avec nous et qu'ils ont les moyens de payer le privé, je pense qu'ils reviendront pour travailler avec nous parce qu'ils savent qu'en plus, il y a une expertise que les entreprises et les cabinets n'ont pas. Donc, faut pas avoir peur de chiffrer. On a des sociologues à l'université qui facturent une journée près de 1000 euros. Parce que la concurrence, c'est comme ça et parce que c'est les prix. Et ça marche très bien parce que c'est 1000 euros une journée. Dans le privé, ça peut même monter bien plus. Mais la moyenne, c'est 1000 euros. Ça marche.
Oui, ça marche.
Finalement, hein, c'est bien. Et on doit obligatoirement mettre en place un contrat de prestation au-dessus de 6000 euros. Nous, on le préconise aussi en dessous, parce qu'au moins ça nous assure que la partie qui passe une commande, elle le fait. Enfin, elle nous payera bien à la fin. Mais au-dessus de 6000, c'est la loi, on doit le faire. Ça arrive des fois que certaines personnes oublient, passent un bon de commande. Oui, ça passe aussi, hein. Sauf que si on s'en aperçoit, et ben, s'il y a un problème, on n'aura rien pour se retourner.
Mais tu peux m'en passer?
Bien sûr.
Nous, on a les littéraires que je représente un peu aujourd'hui. On n'a rien à vendre, sauf que de temps en temps, on nous demande des conférences qui ne sont pas directement liées à notre objet de recherche. Donc, ce n'est pas une activité de recherche. C'est vraiment, on nous passe une commande dans un cadre souvent de collectivité publique, d'une conférence d'une heure et demie ou 2 heures sur un sujet. Généralement, ça se négocie avec le chercheur. On se fait payer au tarif d'un cours magistral, que dalle. Et c'est pas de la main à la main, on signe une autorisation de cumul, on fait un petit chèque minable, et ça se passe comme ça. Est-ce que ça, c'est une prestation, est-ce qu'à la limite, on pourrait leur répondre, d'accord, on va signer un contrat de prestation avec mon laboratoire, et le laboratoire facturerait.
Oui.
D'accord.
Il y a des. En médecine, Hervé Vatier, vous avez peut-être entendu parler, oui. Ce monsieur fait des interventions, colloques ou autres, il fait des interventions, et un jour, on lui demande le prix. Bah, il a sorti un prix autour de 2000 euros. Ah oui, bien sûr, passe. Et ça n'a choqué personne. Et on s'est dit, bah, il faut juste essayer. Et des fois, il faut effectivement. Et mais c'est bête, mais parce qu'on ne se rend pas compte de ce marché-là, mais c'est vrai que vous êtes des experts dans le domaine. Donc, un expert qui intervient dans le privé, ça coûte cher. Pourquoi est-ce que vous, ça n'aurait pas le même prix? En plus, vous avez des années d'études qui renforcent cette expertise que les experts n'ont pas forcément, pour le coup, dans le privé. Et donc, on peut tout à fait faire ce genre de choses.
Et dans ces cas-là, l'argent est versé sur le compte du laboratoire.
Sur le compte du laboratoire, et vous pouvez l'utiliser pour des colloques, des stages. Oui. Tout à fait.
Alors que dans notre cas, c'est le laboratoire qui est
Oui.
payé et c'est pas la même chose.
Non, c'est pas la même
Alors,
chose.
c'est pas la... ça dépend des labos, parce que du coup, moi, je réfléchis par rapport à mon labo qui est tout petit. Les sommes qui rentrent, même 100 euros qui rentrent, on sait très bien ce qu'on en fait. Et en plus, le chercheur, il ne paye pas d'impôt sur l'argent qui tombe sur le labo. Donc, si par exemple, les 100 euros, on dit, bah, ce sera ton billet de train pour telle mission,
Exactement.
Le chercheur est gagnant. J'imagine que quand on est dans un très grand labo, on se dit, ah oui, c'est moi qui vais faire le boulot, si l'argent va tomber dans le pot commun, j'en verrai jamais la trace.
Alors, par contre, ça ne tombe pas dans le pot commun. Petite info, quand vous faites des prestations, on crée une ligne dans le laboratoire de prestations. Donc, ce n'est pas dans le pot commun, c'est sur un compte spécifique. Nous, on va vous mettre vous comme référente, par exemple, et vous pourrez dire à votre entité financière que vous voulez faire des dépenses sur cette ligne-là. Et vous avez le droit de. Voilà, c'est fléché. Enfin, c'est fléché, c'est pas. Vous en faites ce que vous voulez au final, mais. Alors, effectivement, c'est pas la même chose. Ou le labo, ou heure complémentaire. Voilà. Non,
C'est pas
non,
une
mais c'est très
rémunération, c'est
différent,
autre chose.
effectivement. C'est pas du tout la même chose, mais après, il y a les possibilités de faire ou l'un ou l'autre. Oui, ça peut avoir.
Oui, je parle des prestations.
Oui, vous pouvez tout à
Non,
fait.
non, je sais pas, c'est
Mais si, si, parce que Xavier Rodier fait beaucoup de.
Ben, je peux dire un mot sur les prestations parce qu'on en fait pas mal dans le laboratoire. Pas dans le cas que tu soulevais, c'est-à-dire vraiment où c'est un chercheur, un individu, c'est toujours lié à un chercheur du laboratoire évidemment, mais c'est pas une prestation individuelle comme une conférence ou quelque chose comme ça. Mais cela dit, pour ça, il me semble, en tout cas c'était le cas, j'ai pas vu ça depuis longtemps, au CNRS, et je pense que les règles sont les mêmes, il y avait la possibilité de toucher non pas des heures complémentaires comme c'est le cas, comme tu l'évoquais, mais une forme d'honoraire. C'est-à-dire qu'on peut avoir une activité sous forme d'honoraire quand on fait les choses, et là, c'est vraiment un paiement individuel pour le coup. Il me semble que ça, c'est
Alors,
quelque chose qui existe,
nous,
mais
ça, c'est
je.
pas fait, mais si ça doit se faire, ça doit se négocier avec les personnes au-dessus.
Je sais
Dans
que le
les
CNRS
transferts.
avait
Mais, enfin.
couvrait ces cas-là pendant un moment où je n'ai jamais pratiqué, hein, mais
Mais nous,
en revanche.
on n'a pas mis en place chez nous, mais ça pourrait se développer s'il y avait des demandes des chercheurs de ça, quoi, pour le coup.
Et dans ces cas-là, c'est vraiment l'individu qui touche l'argent. On n'est plus dans le cadre du labo. Ça dit, nous, ce qu'on pratique dans le cadre du laboratoire, on avait, donc c'est le laboratoire d'archéologie. Tout le monde ne sait peut-être pas ce que je fais. on est sollicité très régulièrement et depuis très longtemps pour des choses qui sont effectivement à l'interface entre collaboration et prestation et qu'on ne savait jamais très bien comment appeler. Et puis depuis maintenant 2012, on a vraiment formalisé ça sous forme de prestation. C'est-à-dire qu'on nous demande des études de mobilier céramique. On nous demande des études d'ossements animaux sur des opérations archéologiques qui ont été menées ailleurs, pas dans le cadre du laboratoire, par d'autres opérateurs de l'archéologie, souvent dans le cadre d'une archéologie dite préventive, qui elle-même légalement est soumise à la concurrence depuis 2003. Donc on est dans un cadre vraiment commercial pour le coup. Et afin de répondre à ces demandes-là, alors, on avait effectivement toujours des accords avec beaucoup de chercheurs qui avaient exactement la réaction qu'Émilie décrivait, c'est-à-dire, oui, mais si jamais on demande un peu plus, ils voudront pas payer et on n'y arrivera pas. Sauf que le monde a un petit peu changé et que, en fait, une fois qu'on a eu chiffré, en s'alignant, en se renseignant, moi je me suis renseigné assez précisément sur les tarifs pratiqués par les opérateurs d'archéologie pour ce type de travail, on s'est rendu compte qu'en fait, on a appliqué des tarifs ensemble, on a calculé des tarifs qui tiennent compte des frais de l'université, du temps chercheur appliqué à chaque prestation. Alors, c'est, évidemment, tout ça, c'est un schéma global, c'est pas au cas par cas. De manière à chiffrer, effectivement, au jour homme, ce que représente le travail en question. Et quand on a eu chiffré ça, on s'est rendu compte que, en fait, on était très en dessous de ce qui se pratiquait dans la concurrence. Même en le chiffrant comme ça, ce qui était déjà bien au-dessus de ce qu'on pratiquait avant, quoi. Et donc, en s'alignant, pas complètement sur ce qui se pratique, mais au bas de la fourchette de ce qui se pratique à l'extérieur, les premières prestations qu'on a fait passer, les devis ont été, on a émis des devis et ils ont été signés sans qu'on nous pose aucune question. Parce qu'effectivement, on était parfaitement dans les clous, voire même pas très cher, quoi. Donc, par rapport à la concurrence. Puisqu'il y a une réelle concurrence qui existe, quoi. Enfin, concurrence, j'exagère un petit peu. On n'est pas plusieurs à répondre à la même prestation, mais en tout cas par rapport aux pratiques qui se pratiquent chez nous, aux tarifs qui se pratiquent chez nous. Et donc à partir de là, effectivement, on rentre réellement de l'argent dans le laboratoire. Donc il y a une ligne, comme le disait Émilie, qui est créée pour ça. Alors on a souhaité, parce que ça permet beaucoup plus de souplesse, avoir une seule ligne pour tous les types de prestations qui arrivent dans le labo, et nous on tient un tableau à jour pour dire en gros effectivement quel est le chercheur qui a piloté telle ou telle chose, de manière à savoir ce qui relève de telle ou telle activité du laboratoire, et à partir de là on a des crédits qui sont complètement utilisables pour aller à des colloques, pour payer des missions, pour acheter un ordinateur ou quoi que ce soit, sans avoir même à les justifier. C'est-à-dire que puisque c'est de la rentrée brute, il n'y a pas un financeur auprès duquel on doit justifier, donc c'est de l'argent qu'on utilise comme on veut, ce qui est très confortable dans l'utilisation des crédits, quoi.
C'est vrai que même si ce n'est pas de la recherche et que les publications, et il n'y en a pas ou très peu, il y a quand même des intérêts. Et d'une, on renforce son réseau avec les entreprises, les collectivités ou autres. C'est une source de revenus et de financement pour le laboratoire, ce qui n'est pas rien non plus. Et ça favorise les contacts avec les industriels. Et ça peut permettre aussi après à des industriels ou institutions, qu'importe, de voir le travail que vous faites et de se dire que ça pourrait être intéressant de faire une collaboration. Ça peut aussi être aux prémices d'une... prémisse d'une collaboration. Et on se dit souvent qu'on n'a pas grand-chose à vendre, mais je pense qu'il faut réfléchir autrement et il faut se demander ce que les autres recherchent quand ils viennent nous voir. Pourquoi est-ce qu'ils viennent? Ils souhaitent quoi? S'ils viennent, c'est qu'ils ont un intérêt. Sinon, ils ne viendraient pas nous voir. Et c'est pour ça que c'est important de bien en parler. Si ce n'est pas avec eux, ne serait-ce avec des personnes de l'université, toi de chercheurs ou nous, le service de valorisation, parce qu'on peut aider à trouver des solutions et les façons de faire les plus optimum. Voilà, j'ai mis l'exemple du déroulement d'une station et une prestation, par contre, il faut savoir être réactif souvent, parce que le délai est très court. C'est-à-dire que y a un besoin de compétences du partenaire. On négocie le scientifique et le technique, le juridique et le financier. Et ensuite, le projet peut avoir lieu en 6 mois, quoi. De la signature à la fin, c'est 6 mois ou 3, ou c'est rarement au-dessus de 6 quand même. Ça peut arriver quand il y a des retours, après quand il y a différentes étapes, mais souvent, faut être réactif quand même. Chose qu'on sait faire et que vous savez faire aussi au final. C'est juste qu'on le fait peu, mais ou que c'est pas dans les mœurs de tous. Mais nous, quand on signe des contrats de presta, c'est quand même très rapide.
Ah oui.
Maintenant, c'est une fois qu'on a pris les pics, qu'on sait le calculer, c'est vraiment facile de réagir. Autant notre institution qui est très lourde, elle sait faire des choses quand même rapidement. Faut le dire.
Ouais, juste pour vous donner une idée, enfin, si je peux
Bien
compléter
sûr.
de ce qu'on fait pour le coup, sur certains types d'études, alors c'est vrai que c'est à la limite parfois, même dans la tête du chercheur, entre la collaboration et la prestation. Sur les exemples que je citais d'études de mobilier archéologique, on est vraiment dans une prestation, puisque c'est un savoir-faire qu'on a dans le labo qui fait appel aux moyens du laboratoire, c'est-à-dire des collections de références, des choses comme ça, sans lesquelles on ne peut pas faire ses études. En même temps, les chercheurs n'ont pas vocation à faire de la prestation en soi, c'est-à-dire à consacrer leur temps à cela. Et donc, du coup, sur des ventes comme ça, sur des prestations de cet ordre-là, on chiffre et on va embaucher un étudiant de master ou quelque chose comme ça sur les bénéfices de la prestation pour faire le travail encadré par le chercheur en question. Et donc, le bénéfice, en fait, on va l'utiliser en partie à ça, et puis le reste, après, effectivement, est utilisable comme on veut. Et du coup, bah, c'est un bon moyen de faire travailler un certain nombre d'étudiants, de leur assurer un peu une suite, des fois, après un master ou quelque chose comme ça. Et le chercheur s'y retrouve complètement, parce que là où il n'aurait pas fait lui-même ses études, parce que c'est trop à la marge du cœur de sa recherche. En revanche, il va augmenter son corpus de données, parce qu'il va pouvoir bénéficier des résultats. Et là, il y a vraiment. C'est ça qui fait que, pour le coup, c'est à la limite avec la collaboration, mais c'est bien une prestation. C'est-à-dire qu'on rend un rapport avec des résultats, et ça, c'est la propriété de celui qui a, du client qui a acheté, quoi.
Oui, c'est vrai qu'en sciences humaines, la limite entre une collaboration et une prestation peut être parfois très difficile. Parce que souvent, les chercheurs parlent avec la personne qui souhaite une étude et ils passent du temps à définir des objectifs. Ils se revoient pour d'autres éléments. Et en ça, ils vont nous dire, mais c'est une collaboration puisqu'ils travaillent avec nous. Mais en fait, ils ne travaillent pas avec vous réellement, ils définissent les objectifs. Sauf que c'est très compliqué de voir la limite. Alors après, ce qui joue beaucoup, c'est ce qu'ils veulent faire des résultats. Et ce que vous faites vraiment, vous, est-ce que c'est vraiment de la recherche ou pas? Ça aussi, c'est important. Sur une prestation, c'est vraiment pas de la recherche. Clairement. Donc c'est pas forcément évident, je vous l'accorde. Alors après, autre chose qui n'est pas une collaboration, c'est la subvention. Une subvention n'est clairement pas une collaboration avec le financeur. Absolument pas. C'est une aide qu'on nous verse dans le but de valoriser une activité d'intérêt général, souvent. Donc je ne sais pas si vous avez, bah, si sur Editef, sur l'ANR, c'est un ANR, hein, donc c'est l'ANR qui verse de l'argent, par exemple, c'est pas une collaboration. Il vous verse de l'argent pour un travail qui est spécifique, auquel vous avez répondu suivant le cahier des charges, mais il n'y a rien de collaboratif. Qui veut dire que vous êtes seul à le construire, ce projet de recherche. Le financeur ne le fait pas avec vous. Le contrat est fait par le financeur suivant ses contraintes. Donc là, la négociation, elle peut avoir lieu si vraiment il y a des clauses qui ne sont pas vraiment sympathiques et ou qui ne vont pas à l'établissement. Mais c'est quand même très rare. Honnêtement, souvent, ils nous envoient le contrat et on n'a pas à le négocier, quoi. Si on est d'accord, on signe et puis c'est tout, quoi. La propriété des résultats, par contre, est au financé. Elle n'est pas au financeur. Le financeur vous demande un rapport, un bilan, mais les résultats, ils ne lui appartiennent pas. Souvent, on se dit que la région a financé un projet, donc elle a le droit d'utiliser les résultats de recherche. Non, non, pas plus que. Enfin, non, c'est pas parce qu'elle finance que c'est le cas. Il n'y a pas de contrepartie, en fait. Par contre, il y a plus de. Contrainte, c'est qu'on est obligé de justifier les sommes qui nous sont attribuées. En général, on essaye d'être proche du montage qui a été fait. Il y a des évolutions, un projet c'est long, évidemment, ça évolue, c'est pas gênant. suffit juste que le financeur soit au courant si les évolutions sont importantes. Et encore, il y en a, on leur dit juste, ils disent OK, d'accord, et puis c'est tout, ça continue, quoi. Mais on essaye quand même que le montage soit un peu cohérent. Et là, le coût est marginal, c'est-à-dire qu'on ne chiffre pas tout, contrairement à une prestation. On chiffre que les besoins que nous avons. Par contre, pour répondre aux demandes de subvention, on peut le faire avec des collaborateurs. Donc, il peut y avoir des collaborations, c'est la même chose que dans un projet qu'on dépose en région, par exemple. Ils demandent maintenant des collaborateurs dans le milieu économique, socio-économique, exactement. Voilà. Mais ça arrive dans ce cas-là que la région nous finance et que nous, il faille qu'on mette un accord de collaboration en place entre les personnes qui répondent. Ce n'est pas le contrat du financeur qui régit la collaboration qui se fait pour répondre au projet. Ben, en gros, c'est un peu un mismatch de contrat, mais faut y penser. Et une subvention, c'est quand même, là, dans le déroulé, beaucoup plus long, ne serait-ce que pour le dépôt, contrairement à une prestation, une collaboration. Là, c'est uniquement le dépôt et ça peut prendre un an. Juste le dépôt et la réponse et le début du projet de recherche. Pour l'ANR, c'est même, ça peut même être bien plus long. Alors, je vous ai parlé des coûts, le coût complet, le coût marginal. Je vous ai mis des définitions parce que j'en parle, mais je ne sais pas si tout le monde est au fait de ça et c'est important de le savoir. Quand on établit une prestation, qu'on chiffre même le temps du chercheur, même si vous avez un financement de l'État, c'est votre coût qu'on chiffre, c'est important, il faut le faire. Le coût doit être complet. Et le coût marginal, c'est vraiment juste les besoins en plus qu'il nous faut pour réaliser le projet. Je dois simplifier. Donc la distinction est importante. Souvent, quand vous faites des contrats de collaboration, enfin, quand vous avez des collaborations en cours ou à venir, vous pouvez nous demander des petits contrats, les types, on appelle ça, il n'y en a pas. Mais il y a des clauses qu'on retrouve à chaque fois. Je veux dire, ça, après, il faut qu'on encadre ces choses-là. Donc ça, c'est des accords qu'il y aura à chaque fois. Le préambule, c'est important qu'on sache pourquoi est-ce qu'on travaille ensemble et qu'on le définisse en en-tête. Faut le temps de la collaboration, 6 mois, 1 an, 24 mois, un peu plus que ça. Faut qu'on ait la capacité de résilier le contrat. On espère que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. C'est pas vrai, le contrat, ça sert essentiellement à se border là-dessus, quoi. Parce qu'il y a des fois où ça finit mal et en médiation ou après en tribunal, enfin, on ne s'amuse pas forcément à chaque fois, en fait, hein. On est un peu embêtant avec ça, mais c'est pour éviter qu'après, on soit amené à faire ce genre de choses. Tout bonnement. Donc, on le met, c'est un peu barbare, mais il faut le faire. Il y a des clauses comme invalidité d'une clause. Des fois, il y a des partenaires qui veulent absolument mettre une clause, même si on lui dit que non, elle n'existe pas, ce n'est pas possible. Mais quand même, elle ne vaut rien, parce que légalement, elle n'existe pas. Le règlement des litiges à l'amiable, tribunaux, arbitrage, il faut qu'on le mette aussi. C'est des clauses qu'on ne peut pas ne pas mettre et la loi applicable. On essaye de mettre la loi française, évidemment. Avec les Québécois, c'est plus compliqué, par exemple. Avec des étrangers, on essaye de mettre la loi de la Belgique, qui est plus proche de la nôtre, c'est tierce, et des fois, ça passe. Parce que du coup, c'est très proche de ce qu'on fait. Sinon, après, c'est compliqué. C'est des détails, mais ça, c'est des clauses qu'on mettra à chaque fois. Et après, ce qui va faire que les autres clauses vont évoluer, c'est le scientifique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous donner un contrat à chaque fois qui aille pour tous les cas. C'est pas vrai. On s'adapte suivant ce que vous souhaitez faire et ce qu'il faut que vous mettiez en place. Nous, à la Valo, on est là pour vous aider à faire ces choses-là. On est un support pour tout ce que vous faites. Maintenant, on n'a pas réponse à tout et il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. C'est pour ça que j'ai demandé à ce monsieur là de venir avec nous. Parce qu'après, il y a dans la pratique, quoi. Les collaborations et les projets de recherche les collaborations de recherche dans la pratique, c'est tout à fait autre chose. Et il y a plein d'aspects qu'on ne voit pas. On ne voit pas quand ça ne marche pas, forcément. On ne voit pas quand il y a des bugs. On ne voit pas quand il faut mettre les choses en place. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas faire. Hein. Comme trouver des partenaires et créer son réseau, c'est une partie qui ne doit pas être simple, mais que nous, on ne fait pas. Et c'est très difficile pour nous de vous aider à faire ça. Parce qu'on n'a pas les clés, ces genres de choses. Et suivant les thématiques, c'est très différent. Moi, je m'occupe des sciences humaines et sociales et du numérique. Donc, je vous explique le panel quand même assez large. Donc je peux pas être spécialiste de créer son domaine dans une thématique précise. On aide à monter le projet, mais là c'est pareil, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Les relations que vous mettez en place avec les partenaires, les réunions que vous avez, soit vous nous emmenez, et là on peut vous assister et vous aider. Sinon, quand vous le faites, il y a plein de choses qu'on ne voit pas et des choses qu'on ne sait pas. Donc, c'est important d'avoir un retour sur expérience de ce qui se fait, des difficultés qui peuvent être là. Après, il faut la négocier, la collaboration. Là, c'est pareil. On n'impose rien au sein de notre université, en tout cas. Vous pouvez aller seul la négocier, il n'y a pas de souci. Mais il faut bien avoir en tête les règles de l'établissement. Parce que souvent, quand les personnes y vont sans soutien, eh bien, elles négocient des choses qui ne vont pas avec l'établissement. Après, on est obligé de revenir sur ce qu'elles ont dit, ce qui n'est pas top pour eux ni pour nous. On ne se sent pas forcément à l'aise. Donc, soit on vous aide avant d'y aller, soit on vient avec vous. Il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai qu'il y a, il y a beaucoup de choses, du coup, qu'on ne voit pas. Et pour mener un projet, là aussi, je pense que c'est compliqué et qu'il y a beaucoup de choses à voir et des choses desquelles je ne peux pas parler. Hein? N'est-ce pas, monsieur Roudier? Parce que, du coup... Vous savez, un projet, c'est une subvention de la région, mais il a répondu avec des collaborateurs, en fait. C'est assez compliqué, au final, en absolu.
Non.
C'est assez compliqué. Il y a plein de choses qu'il faut voir et penser, et tout ça, voilà. Et mener un projet de recherche comme un ANR, c'est si on a eu un, et je pense qu'il y a plein d'aléas auxquels, enfin, dont ils peuvent vous parler et qui seront utiles à savoir. Je pense qu'il y en a quand même. On ne voit pas forcément. Je vais laisser prendre la parole. Sur ces points-là, trouver des partenaires et créer son réseau, il me semble qu'il y a des choses très spécifiques qui existent. Daria. Et Daria, je ne sais pas. Ou autre, d'autres choses.
Ah oui.
Par exemple, il y en a d'autres. Ceux-là, par contre, moi, pareil, je ne les connais pas. On n'est pas dedans, nous.
Nous, vas-y, je t'en prie. À moins, peut-être qu'il y ait des questions directement.
Oui, s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter. Donc, pour trouver des partenaires et créer ce réseau, comment vous...
Alors, nous, c'était un programme ANR Jeunes Chercheurs. Donc, on n'est pas parti avec l'idée de partenariat avec une autre entité. C'était déjà difficile d'être une entité à nous tout seuls. Donc, c'est une équipe que j'ai réunie, parce que j'étais le porteur de projet. Sur l'équipe de 8, au départ, on était 2 de Tours, et donc 6 d'autres universités. Et il se trouve que on se connaissait déjà très bien, on faisait déjà partie d'un réseau de chercheurs qui existe depuis longtemps mais sous forme associative, donc on n'a pas eu la question de chercher les gens pour constituer l'équipe, et c'est la condition de réussite de ce projet.
Et c'est quoi ce réseau?
En fait, ça s'appelle l'Association française de recherche sur les livres et objets culturels de l'enfant.
Ok.
Ça a été créé il y a une quinzaine d'années pour réunir des chercheurs qui travaillent sur les livres pour enfants et plus largement sur les objets de l'enfant. On se connaissait depuis très longtemps, on avait déjà organisé des colloques, on a un séminaire, etc. C'était la première fois qu'on se fédérait non plus sous la forme associative, mais dans le cadre d'un programme reconnu par l'institution universitaire. Mais en fait, on se connaissait depuis très très longtemps, et dans l'équipe, il y avait plein de membres avec qui j'avais déjà eu l'occasion de travailler sur un article, dans le cadre d'un colloque, etc. Donc ça a fonctionné pour ça. Et c'est aussi ça qui explique les trucs qui n'ont pas fonctionné. Par exemple, la clause de confidentialité, on s'était pas imposée entre nous, parce qu'on se connaît très bien, on s'estime beaucoup, certains ont été les professeurs d'autres. Et puis on a recruté une jeune docteure comme postdoc, et elle n'a pas joué le jeu. C'est-à-dire qu'à un moment, en fait, on partageait tous nos résultats de recherche, nos photographies, nos dépouillements d'archives, et puis nos résultats intermédiaires. Parce qu'on se faisait des journées d'études et puis des ateliers entre nous, des journées d'études avec du public et des ateliers sans public, et on déballait tout. Et elle s'est mise à faire un truc dans son coin, en dehors du champ qui lui avait été attribué, et chaque chercheur a le droit de le faire. Sauf qu'à un moment, elle a dit non, tu te trompes en fait. Tu sors de ton champ et en fait, tu n'as pas tout à fait les outils, et là, tu es en train de dire des bêtises, surtout tu es en train de prendre les résultats de recherche de l'autre qui n'a pas fini d'explorer son champ. Donc non, stop. Retourne dans les trucs... on avait dit que c'était toi qui faisais dans ta partie, etc. Et puis, elle a considéré qu'un chercheur était absolument libre de faire ce qui lui passait par la tête. Et on lui a dit, d'accord, mais
tu présentes pas ce résultat-là publiquement parce que on n'est pas d'accord. C'est pas juste, tu dis des choses qui sont fausses, tu te trompes sur tel et tel point d'analyse, et puis en plus, c'est pas convenable parce que c'est un champ sur lequel travaillent déjà un tel et un tel, c'était convenu comme ça, faut les laisser aller au bout de leurs hypothèses. Et donc, elle a choisi de soumettre librement, donc on lui a dit, d'accord, tu soumets, enfin, on ne peut pas t'en empêcher, tu soumets, mais tu ne mets pas projet MAM, je trouve qu'il y a une revue que je ne citerai pas qui l'a publiée, mais ça nous a posé problème.
Oui.
Ça nous a posé problème parce qu'effectivement, nous, on n'avait aucune contractualisation sur ces questions-là, mais ça fait partie de la déontologie de la recherche. C'est-à-dire que si on se regroupe pour travailler, on délimite des zones qui correspondent à des compétences, et puis à partir de là, on partage tous les résultats, sachant qu'ensuite, au moment de la publication et du moment où chacun finalement fait valoir ce qu'il a fait dans une dynamique collective, eh bien, chacun signe son travail. En fait, ouais, ça a un tout petit peu coincé.
Et la problématique de ces projets-là, de jeunes chercheurs, c'est qu'il n'y a qu'un partenaire, mais le but, c'est de construire une équipe avec des chercheurs des régions ou des autres universités. Du coup, il y a des partenaires autres, sauf qu'on n'a pas le droit de les nommer, de les identifier en tant que tels, les autres universités.
Oui, c'est ça.
Forcément Université de Tours, et les autres se greffent à ça, alors qu'ils viennent des autres universités. On ne contractualise pas. Et c'est pour ça que c'est pas étonnant, enfin c'est pas étonnant. Ça peut arriver parce qu'en plus il n'y a pas ces notions-là de confidentialité. Toutes ces choses-là sont pas forcément écrites et dites non plus.
Non, c'était pas du tout écrit.
Bah non, puis on se fait confiance. Enfin voilà.
Alors en fait, la confiance a très bien fonctionné dans l'équipe telle qu'elle avait été constituée au départ.
Okay.
C'est toutes les pièces rapportées, notamment ces postdocs, qui avec qui peut-être on n'a pas assez pris le temps de formaliser ce qui était implicite chez des chercheurs qui se connaissaient déjà bien. Et donc j'imagine très très bien que dans un cadre avec un partenariat plus formalisé, donc aussi plus de distance, ça puisse mener à des tensions.
Oui, c'est pour ça qu'on met ces clauses-là et qu'on en parle avant avec les chercheurs quand on contractualise, quand les partenariats sont éloignés. C'est des notions dont on parle avant, pour qu'il l'ait en tête aussi. C'est pas le tout de l'écrire, parce qu'on peut le mettre sans en parler, c'est aussi de se le dire, quoi. Donc on insiste un peu aussi sur ce point-là. On n'a pas l'air d'être très sympa quand on insiste sur ça, mais en plus c'est vrai, enfin c'est barbare comme terme qu'on emploie souvent, mais c'est vraiment utile normalement.
À la fois c'est barbare, mais en même temps c'est le cœur de notre pratique. On est quand même, particulièrement nous en lettres, hein, on est sur des domaines qui sont assez dévalorisés socialement, économiquement, tout le monde pense qu'on est des inutiles. Et du coup, on se rabat sur le prestige identitaire de notre recherche. On est, on est vraiment l'auteur de notre recherche avec la singularité. Et du coup, le vol de cette singularité, il est symboliquement, il est super violent.
Oui, en plus, oui.
Alors que sans doute on attribue trop d'importance à ces questions-là et l'autorialité d'une découverte en lettres, elle est quand même sans doute assez relative. Je crois qu'on avance collectivement, on avance plus que individuellement. Les scoops, on va en trouver quoi un dans toute une carrière, mais à l'échelle de toute une équipe qui travaille sur un champ, oui, en une génération, on avance vraiment bien. On avance d'autant mieux qu'on a partagé. Les fruits de sa réflexion. Mais ça peut coincer quand même.
Mais le réseau donc que vous aviez, c'est vraiment d'être dans un réseau existant.
C'est un réseau qui existait auparavant. Le réseau préexistant, j'aurais jamais monté ce programme. Et parce qu'en tant que chercheur, jeune maître de conf, j'aurais pas su avec qui travailler.
Et ce réseau, vous le connaissiez de quelle façon? Parce que je pense que je pense que...
Je connaissais parce qu'en fait, ma directrice de recherche en était membre.
Mm-hmm.
Et les gens dont je lisais les travaux, la plupart en étaient membres, étaient à l'origine de la fondation de ce réseau. Donc, dès que j'ai eu un peu de sous pour prendre le train, je suis allée aux réunions de cette association. J'ai adhéré à cette association, avant même d'être maître de conf.
Ok. Et Xavier, il y a des projets de recherche? Il y a des réseaux de recherche?
Oui, il y a des réseaux de recherche, mais je crois qu'effectivement, de toute façon, quand il s'agit d'une subvention, c'est-à-dire de quelque chose qui relève d'un appel à projet au bout du compte, quand on répond à un appel à projet, on part toujours d'un réseau de connaissances. Et ça, je dirais que le cercle de recherche dans lequel on travaille, c'est finalement le plus facile parce que les connexions, on les a nécessairement, quelle que soit la discipline. Donc ça, voilà. Après, effectivement, ces projets-là, ils sont toujours collectifs. C'est jamais un projet, que ce soit l'Europe, l'ANR ou la région, c'est toujours une démarche collective. Il y a un porteur de projet, mais il s'entoure d'une équipe constituée pour le projet en question. Il n'y a pas, en dehors des ERC, et encore derrière, après, il y a une équipe aussi, mais en dehors des ERC à l'Europe, il n'y a pas de chercheurs qui vont répondre seuls à un appel à projet.
Donc c'est pas ce qui est compliqué
donc,
en fait.
Donc au bout du compte, le réseau comme ça, c'est pas le plus compliqué parce que de toute façon les collaborations, si on les a pas, on n'envisage même pas de répondre, je crois. Enfin, il me semble. Hein.
Oui. Mais c'est ça.
Par contre, je pense qu'il y a des réseaux, il y a des réseaux qui, pour ce que nous on fait, qui sont très connectés aussi à l'atelier numérique de la MSH, dans l'instrumentation de la recherche en SHS, qui là peuvent aider à des prises de contact, à créer des connexions et auxquelles on fera appel ensuite. Quoi. C'est-à-dire que quand on monte un projet comme ça, on le fait souvent avec des collaborations existantes, et puis on se rend compte qu'on a, pour mener à bien le projet, même avant même de remplir le dossier lui-même, rien que dans l'étape de réflexion préalable, on se rend compte qu'on aura besoin d'un certain type d'outils, par exemple, ou d'outils d'instrumentation de notre recherche. Et dans ces cas-là, il y a des réseaux existants autour, je pense que l'instrumentation numérique de nos travaux en SHS, les deux principaux organismes qui pilotent ces réseaux-là, c'est le réseau des maisons des sciences de l'homme, d'une part, parce que là, à travers les plateformes, l'atelier numérique ici à Tours, mais à travers les plateformes et les connexions qui existent entre les maisons, il y a des vrais réseaux qui sont constitués. Nous, on en a un depuis une quinzaine d'années maintenant en archéologie avec des partenaires, justement. Et donc ça, nécessairement, quand on veut répondre à un appel à projet, c'est dans ce réseau-là qu'on va piocher les partenaires, parce qu'on sait qui fait quoi, et voilà. Et puis, il y a tous ceux qui relèvent de la TGIR Humanum, où là on est vraiment dans les outils pour les humanités numériques, quoi. Et là c'est pareil, il y a des consortiums, il y a des choses, il y en a plusieurs qui sont dans laquelle la MSH de Tours est impliquée, et dans ces Val de Loire, pardon, on est filmé en plus, voilà. dans ces consortiums là, là aussi on va savoir c'est utile pour savoir où dans notre réseau de collaboration de recherche directe, mais dont on aura besoin pour mener à bien le projet. Par contre, je pense qu'il y a une quand on commence à monter un projet, quand on l'a déjà fait plusieurs fois, après les choses s'établissent, mais au début il y a un vrai pas qui est entre les connexions individuelles de chercheur à chercheur dans un réseau de collaboration naturel, je dirais, qui est constitué. Et le moment où on institutionnalise ces collaborations par le passage par les laboratoires, justement, pour pouvoir répondre au dossier. C'est-à-dire, c'est pas le chercheur individuel d'un autre laboratoire avec qui on collabore, mais c'est lui dans un laboratoire, donc c'est le laboratoire qui signe le partenariat. Et ça, c'est des fois, il y a des fois un petit décalage, quoi. Enfin, je sais pas si tu as vu ça, mais.
Non, parce que justement, il y avait qu'un seul partenaire.
Ah oui, il y avait qu'un partenaire.
Oui, effectivement, mais le chef de labo, il était pas très content. C'était le début de l'ANR, donc il fallait qu'on dise un truc qui nous avait évidemment fait hurler de rire. Les hommes morts là, et la quotité, alors oui, c'est la première fois qu'on entendait ça. Donc on disait 63%, etc. Sauf qu'au bout de 2-3 ans, il y a des chercheurs qui, dont c'était évidemment le premier travail d'ANR, on était quand même globalement très jeunes, et ils avaient... Poser toute leur quantité de temps disponible. Et donc, leur chef de labo disait, non, t'es dans mon labo et t'as 0% de temps à consacrer au projet que je monte parce que t'es déjà à 70% avec Cécile Boulard et à 30% avec machin que je connais Nindel Miladan. Et c'est eux qui vont émarger à l'ANR. Et finalement, moi, je peux pas disposer des gens de mon labo. Je pense que maintenant, ces choses-là sont un peu rentrées dans les mœurs. C'est pas exactement de la même façon.
Bah, les directeurs de laboratoire demandent beaucoup à être au courant, quand même.
Mais oui, mais c'est
un métier normal.
C'est indispensable.
Alors qu'aujourd'hui, là, c'est. Enfin, là, c'est évident. Nous, quand on monte un projet de recherche, quand je viens nous voir pour monter un projet de recherche, la remarque, c'est est-ce que le directeur est au courant? Parce que sinon, effectivement, pas sympa. Non, c'est pas sympa. Il y en a qui le prennent plus ou moins bien, effectivement. On peut dire ça comme ça.
Ben, après, c'est vrai que c'est les financeurs, les principaux financeurs pour l'Europe, l'ANR, la région, pour nous, hein, selon les cas de figure, ils ont de plus en plus tendance même dans leurs appels d'offres, à faire en sorte que c'est effectivement le porteur de projet qui est l'interlocuteur et qui est l'interlocuteur direct. Oui. C'est-à-dire que même le dialogue entre le financeur et le porteur de projet, si le projet est accepté, il passe quasiment directement par là, oui. Par vous évidemment, puisqu'il y a ce que vous rappeliez tout à l'heure, hein, c'est le président de l'université qui signe, mais le laboratoire peut vite être squeezé, y compris dans le dialogue, même dans le passage d'informations directes. Et ça, c'est compliqué, parce que ces réactions-là, on les comprend bien. Quand derrière, il faut évaluer face aux instances d'évaluation un laboratoire, on a besoin d'avoir toutes ces informations. Donc il faut bien des tableaux de bord dans les labos qui permettent de suivre ça. Et puis effectivement, il faut bien aussi savoir à quel pourcentage, même si c'est très global, ça, et que c'est beaucoup à la louche, les chercheurs travaillent là ou là, quoi. Mais je pense que de toute façon, à force de répondre à les appels, on doit tous être à 200%. Donc,
c'est ça. Après, sur les contrats de collaboration qu'on fait hors ces appels-là, on met souvent le visa du directeur de laboratoire. Mmh. C'est pas une obligation, on ne le fait pas à chaque fois, ça dépend des directeurs de laboratoire qui le demandent ou pas. Mais c'est vrai qu'on s'adapte aussi, enfin, les contrats, les collaborations, nous, elles s'adaptent à ça, aux demandes des chercheurs, du coup.
Mais même pour répondre à un projet, la région, par exemple, les derniers qui viennent de passer, le directeur de laboratoire doit signer le projet du porteur principal. Mais si on est simplement partenaire, il n'y a pas de signature. Donc au bout du compte, ça peut très bien échapper à un moment ou à un autre. Et c'est vrai que c'est perturbant, quoi, parce que ça échappe. Ouais, même ça.
Effectivement.
Donc et en revanche, les partenaires dits non académiques, eux, doivent signer pour marquer l'engagement.
Oui.
Donc c'est curieux, quoi, parce que on se demande un peu comment sont montés les consortiums dans les labos, quoi. C'est normal.
Pour négocier les collaborations qu'il y a dans le projet de Solidar, ça a été facile ou pas? Parce que dans le projet, la DRAC.
Ouais, donc deux mots, Solidar, c'est un projet, donc il y a un appel, une réponse à un appel régional. Et il y a donc qui porte sur on va dire de quoi il s'agit quand même.
Il n'y a rien de confidentiel dans le résumé.
Voilà. Donc qui porte sur les dynamiques d'occupation du sol dans la forêt du domaine de Chambord et en fait plus largement sur les forêts attenantes de Boulogne, Russie et Blois, donc sur un secteur qui couvre maintenant finalement 260 km². La technique qu'on va utiliser pour travailler là-dessus, c'est une télédétection dite LIDAR, qui est la lasergrammétrie aéroportée. Et donc on a un partenariat là qui s'est monté finalement assez simplement, parce que pour le coup, tout en étant dans une collaboration de recherche, c'est quand même le domaine de Chambord qui initialement, il y a plusieurs années de ça, est venu nous trouver. C'est-à-dire que c'est un des collègues du domaine de Chambord qui est venu nous trouver au laboratoire, parce qu'il sait qu'on a des compétences en recherche dans le domaine en question, et lui a envisagé ce type de travail pour plus tard faire de la valorisation, y compris grand public, autour de Chambord, et de la mise en valeur du domaine lui-même, pas du château, mais du domaine. Et au bout du compte, il est venu nous chercher pour vraiment chercher, non pas une prestation, mais vraiment une collaboration de recherche, pour exploiter les données qu'il était prête à acquérir. Mais au début, il est venu nous chercher de manière très simple en disant, si on acquiert des données comme ça, est-ce que ça ne peut pas donner lieu à un sujet de master? Et en fait, de discussion en discussion, il a vite compris que vu l'ampleur du projet, c'était pas un sujet de master, c'était un vrai programme, d'abord avec des financements lourds, et que là, on a monté un programme de 3 ans qui, si tout se passe bien, devrait donner lieu à probablement plusieurs thèses. Donc c'est pas juste un master qu'on pouvait répondre à la question. Mais ça, c'est dans l'échange que ça s'est construit. Il a fallu un peu de temps. Et au bout du compte, on est passé par cette réponse à l'appel à projet pour répondre. Donc cette collaboration-là, elle était facile, quoi, parce qu'on n'est pas Enfin, eux étaient demandeurs, nous aussi, et donc du coup, on a construit des choses ensemble, quoi. Donc c'était assez simple. Et puis, dans ces demandes, dans ces recherches au préalable, ils avaient, avant même de venir nous voir, déjà fait le tour d'un certain nombre de enfin, des partenaires principaux qui ne sont pas académiques, qui sont extérieurs, même si ce sont des partenaires publics, dont l'ONF, qui est l'organisme de gestion des forêts domaniales, et la DRAC. Donc la Direction régionale des affaires culturelles. Et donc du coup, le partenariat avec eux s'est monté aussi très très facilement, quoi. Par contre, ce qu'ils n'avaient pas du tout anticipé, et là nous non plus, c'est le fait que donc on a fait une demande de financement. Alors on a d'autres partenaires scientifiques, enfin en recherche, qui sont à Tours au laboratoire de géologie, au GECO, et puis à l'extérieur de Tours. Avec l'IRTEA Orléans et à l'extérieur de la région avec la MSH de Besançon. Et justement par les réseaux de recherche dont je parlais tout à l'heure. Et puis le financement principal vient de la région par la réponse à l'appel à projet. Mais il y a deux des partenaires, la DRAC et le domaine de Chambord, qui financent également, alors dans une moindre mesure, mais malgré tout de manière conséquente. Et ces deux financements-là, quand on a déposé le projet par la région, la DRAC elle-même et le directeur du domaine de Chambord ont signé des engagements en s'engageant à verser une somme d'argent, je ne sais pas comment l'appeler pour le coup, et en fait, au moment du montage réel du projet, pour la DRAC, on s'est rendu compte que le seul moyen qu'ils avaient de nous verser l'argent, c'était sous forme d'une subvention. Donc ça s'est réglé relativement vite parce qu'on savait déjà faire et voilà. Et le domaine, on est en train de découvrir qu'eux-mêmes ne savaient pas du tout comment ils allaient verser l'argent. Donc, ils étaient prêts à participer, mais ils n'avaient pas anticipé le fait qu'administrativement, ce n'est pas si facile.
Voilà.
Et donc là, on est dans un cas de figure
Oui, et du,
nouveau.
voilà. Et du coup, la négociation, là, pour le coup, est longue. Parce que même s'ils sont d'accord pour donner de l'argent et ils veulent le faire là maintenant,
Oui, c'est ça.
Ils ne peuvent pas nous faire un chèque, non. Effectivement, ça serait beaucoup plus simple en l'occurrence. Et effectivement, là, on y passe quand même beaucoup de temps. Et c'est poser la question, du coup, des résultats de la recherche aussi.
Et alors voilà,
on en
c'est-à-dire
fait
que
quoi? Est-ce qu'on commence? On en publie.
Selon la manière dont ils versent l'argent, eh bien, pour le coup, les résultats, ça ne se pose pas de la même manière. Et
donc,
voilà.
Du coup, il y a eu beaucoup de questions qu'on n'avait pas vues avant, qui n'avaient pas été vues avant parce que le sujet n'a pas été abordé et qui maintenant nous interrogent dans le processus pour mettre en place des choses, quoi.
Il y a autre chose qu'on n'avait pas anticipé, qui pose pas de problème. Non, non, mais qui posera pas de problème direct, mais c'est que aussi bien le domaine de Chambord, eux, je pense, ça leur pose pas de problème du tout, mais la DRAC, qui sont partenaires à part entière du projet comme tel, le conservateur régional d'archéologie m'a demandé quelle était la Enfin, étaient surpris par avoir de contrat. C'est-à-dire qu'eux ont signé un engagement au moment du dépôt du projet pour être partenaire de ce projet-là. Et à partir du moment où le projet est accepté par la région, il est financé auprès de l'université. Et la convention, du coup, qui valide le projet, elle est signée entre la région et l'université de Tours, mais les partenaires, ils sont à l'intérieur, eux n'ont rien signé. Enfin, ils ont signé un engagement au moment du dépôt, voilà. Et donc, eux me disaient à ce moment-là, mais pourquoi on n'a pas l'accord final? Je dis, l'accord final, c'est pas vous qui le signez, quoi. Et là aussi, moi, j'avais pas complètement anticipé ce type de choses. Ça pose pas de problème, mais ça aurait pu.
Et puis après, il y a des solutions à trouver quand ce cas-là se présente. On peut mettre en place des contrats de collaboration entre les partenaires pour dire on va travailler ensemble sur le projet. Le projet va être fait. Les actions sont ça, 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 le délai c'est ça, la personne qui gère le projet c'est le porteur, c'est monsieur un tel, et on peut encadrer ça. Comme ça, chacun travaille ensemble sur cette chose-là. Mais une fois que le projet est clairement établi et que je sais vraiment moi de quoi ça traite, qui est dedans et qui fait quoi, et les retombées et du projet, c'est facile. Mais pour le coup, il faut que chacun ait fait sa partie pour qu'il en ressorte des choses faciles, quoi.
Mais ce qu'on avait, enfin, ouais, je pense que ce sur quoi, une prochaine fois peut-être, je tenterai d'être plus clair au départ avec les partenaires, c'est de leur expliquer qu'effectivement, ce qui les engage, c'est la signature Alors, ils savent bien quand ils signent, ils s'engagent, mais oui. C'est la signature au moment du dépôt du projet, avant même de savoir s'il sera accepté. Oui. Mais qu'une fois que le projet est accepté, bah, finalement, ils sont engagés puisqu'ils ont signé à l'origine. Oui. Alors, tout ça paraît très logique, mais c'est vrai que c'est... ils ne sont pas dans le montage direct, hein, puisqu'ils font d'autres choses d'ailleurs avec d'autres types de dossiers, et du coup, c'est mieux de clarifier un peu les choses au départ. Mais on a évoqué aussi la question au démarrage du projet de déposer éventuellement un. Enfin, de poser un accord de consortium, quoi, un contrat de donc finalement, ça va peut-être pas être utile, mais ça dépend réellement de la manière dont seront valorisés les résultats, hein, de ce qu'on fait ensemble, ouais. Enfin, en même temps, ce qu'on fait ensemble, c'est défini dans le projet lui-même. Mais ça, moi, ce qui m'intéressait dedans, c'était le fait de couvrir justement la confidentialité. Non pas qu'il y ait des choses top secrètes là encore, simplement, actuellement, il y a un accord verbal entre les partenaires, mais ça, j'ai tenu à le poser dès le démarrage, qui consiste à dire qu'effectivement, on acquiert des données en commun et on va travailler dessus pendant la durée du projet, et que tant que le projet est en cours, il n'y a pas d'autre exploitation sans accord de tous les partenaires. Voilà. Et je pense que c'est prudent de poser ces choses-là. Et parfois, il faut les poser par écrit, quoi.
Alors ça, c'est vraiment une question qu'on avait, puisque la question de l'acquisition des données, elle était centrale dans notre projet. Il s'agissait de faire l'étude d'une maison d'édition dont les archives avaient disparu. Et donc, le premier travail consistait à regrouper les miettes qu'on trouvait à droite et à gauche, et qui étaient quand même des miettes nombreuses, pour en faire un corpus de recherche à partir duquel tous les chercheurs iraient piocher de quoi construire leur propre petite partie. Puisqu'il y avait des historiens qui allaient plutôt travailler sur l'histoire de l'entreprise, des littéraires qui allaient plutôt travailler sur le contenu des livres, des historiens des techniques qui allaient s'intéresser à la matérialité des livres. Bref, on réunissait les ressources, on les mettait en commun, et ensuite on les exploitait collectivement, avec cette idée que, à terme, à la fin du projet, ce corpus qu'on avait réuni, qui correspondait en fait à des archives publiques et privées qu'on s'était appropriées par notre travail de dépouillement, eh bien ce serait bien qu'ils servent à d'autres. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était pas si simple que ça et qu'on n'avait pas du tout bien anticipé cette question-là. D'abord, on ne peut pas mettre à la disposition de tout le monde des trucs qui ne nous appartenaient pas. Mais qu'en même temps, le fait qu'on avait apporté de la plus-value à ces données-là en les regroupant, c'est-à-dire en leur conférant une unité qui existait dans l'histoire, mais qui avait été rompue par la constitution des fonds d'archives. Et comment rendre visible la cohérence d'un fonds qui matériellement est incohérent et qui par ailleurs a des régimes juridiques très différents, parce qu'il y a des archives publiques, des choses qui sont dans des bibliothèques municipales, nationales, départementales, etc., des choses qui sont chez des privés, des choses qui sont dans des archives et qui connaissent elles-mêmes des régimes juridiques différents selon les types d'archives. Par exemple, des bulletins de dépôt qui ont été déposés en préfecture il y a 150 ans, vous pouvez les publier sur le web, ça ne défrise personne. Un portrait, non. Et ça, c'était quelque chose qui nous semblait super évident au plan de la déontologie de la recherche, c'est-à-dire on se met tous ensemble, on réunit des données, on pioche dedans collectivement pour construire notre savoir, et à la fin, il nous en reste, on n'a pas tout mangé, on va le donner à la collectivité. C'était très simple dans notre esprit, et on n'avait pas anticipé la réalisation concrète de cette idée a priori très très simple. Et donc ça aboutit à ce site web qui est encore insatisfaisant pour cette raison. Alors, il marche, hein, mais à la marge de beaucoup de choses.
Alors cette problématique-là est propre aux sciences humaines et se développe de plus en plus parce qu'il y a plein de bases de données qui sont faites. On va chercher dans des bibliothèques des données et on se dit on va les mettre en ligne, on va faire un site internet. Quand on cherche ces données-là, on demande à la personne qui nous les donne le droit de le mettre en ligne. On remplit un petit document, on fait remplir un petit document qui autorise la mise en ligne et la reproduction de ces images-là. Si on a ça, c'est facile. Sauf qu'il faut y penser. Et le CESR, typiquement, les BDH par exemple, c'est le casse-tête pour nous parce que je fais des tas de contrats sur les images qui récupèrent des bibliothèques et autres pour les mettre en ligne. Pour avoir le droit de les mettre en ligne, il faut un écrit. Donc il faut que la personne qui on va le chercher nous dise, d'accord, cette courage-là, vous avez le droit de le mettre en ligne et de le prêter. Voilà. Il faut vraiment y penser. Parce qu'effectivement, c'est en le faisant qu'on découvre.
Mais en plus, ça, c'est très difficile de revenir en arrière. Une fois que vous avez tout
Parce
récupéré,
que
de
la
vous
confiance.
dire on y retourne pour demander un accord, c'est très très long. Oui, mais maintenant on est plus au fait. En plus, les ANR, vous étiez au début des ANR, les projets de recherche, c'est récent quand même. Les FEDER et ce genre de choses et autres, les ANR aussi. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont essuyé les plâtres. Enfin, c'est vrai, même nous au niveau de la gestion de ces choses-là, des comptes rendus, des bilans, tous ces trucs-là. Au niveau des bases qui sont mises en ligne maintenant, il y a beaucoup de personnes qui essuient les plâtres et aujourd'hui on sait beaucoup mieux faire. Mais c'est administrativement c'est un peu lourd par contre. C'est vrai que la gestion d'un projet enfin, ou d'une collaboration, ça peut être lourd administrativement. Enfin, je pense qu'il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire.
C'est super bien.
Et quand on demande des
Merci.
collaborations ou qu'on demande des subventions ou autre, faut pas hésiter à envisager qu'on embauche une personne à mi-temps même pour faire toutes ces choses-là tout au long du projet. Même si c'est une collaboration, parce qu'une collaboration, c'est pareil. Faut faire des réunions de suivi, faire des petits comptes rendus, faut qu'on suive un peu le budget. Soit le chercheur le fait, dans ce cas-là, il fait un peu moins de recherche que ce qu'il voulait faire, et on finit par
Beaucoup
être
moins de
super,
recherche.
beaucoup moins de recherche. Donc il faut vraiment envisager que la personne qu'on embauche n'aide pas simplement à faire de la recherche, mais à faire aussi de l'administratif. Et en plus, pour la personne qui est embauchée, c'est un plus. Julia, c'est un peu le cas, non, sur l'ANR Edutech. Donc elle est sur un ANR au CESR. Et le poste, c'est ça, en fait. C'est fait et de l'administratif et de la recherche. C'est vraiment utile et pour le chercheur. Et en plus, c'est un poste qui devient intéressant. Parce y a plein de tâches et ça intéresse beaucoup de personnes, pour le coup. Mais maintenant, on sait
Moi,
comment.
ce jeu, je peux peut-être montrer les trois erreurs sur les choses que tu cites. Il n'y a aucun souci. Comment on va dans le truc là? C'était ça, ça? C'est deux? C'est ça?
C'est ça.
Alors, quand on a lancé le projet MAM, je me suis dit c'est bien quand même que les copains avec qui on va travailler puissent montrer à leur chef de labo ce qu'on fait. Donc j'avais créé un petit site et vous voyez dans la barre d'adresse c'est projet MAM page perso-orange.fr. C'était vraiment du archi bricolage, mais en fait ça marchait, c'est-à-dire qu'il y a même des onglets qui est dans l'équipe, objectifs et méthodes. Enfin, j'avais repris les éléments du projet et puis je les avais rendus publics. Et puis un petit peu après, se sont montés les carnets de recherche d'hypothèses du Cléo. Et quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très très intéressant parce que c'était plus joli que ce que je faisais, mais en même temps beaucoup plus facile à gérer. En plus, si ça tombait en panne, c'était pas mon problème. Et surtout, mon carnet de recherche prenait place dans un réseau de carnets de recherche et il s'occupait de la visibilité. Et puis, ça allait nous permettre éventuellement de faire des rencontres. Alors, ça a marché. Si je le... Ah non, c'est pas tactile ça. Si je descends un peu et que je vais dans base de données, ce qui était quand même un de nos gros problèmes, je dois tomber sur un truc. Ça, voilà, par exemple, celui-là. Sur le carnet de recherche, ben, je racontais un petit peu ce qu'on faisait et les problèmes qu'on rencontrait. Et celui-là, ah, sur un autre. Sur un des billets, ben, j'avais eu une réponse. Une réponse d'un autre programme de recherche qui s'appelle Belfèze, qui était aussi sur hypothèse, et qui, grâce aux mises en valeur qui étaient faites par l'équipe de hypothèse sur leur page fédérative, avait vu qu'on se posait des problèmes, PMB, pas PMB. Autre chose, et eux aussi, ils avaient rencontré ce problème, et du coup, on est rentré en relation, c'était des gens que je ne connaissais pas, et avec qui on a entamé une réflexion collective qui était vraiment constructive sur nos problèmes outils. Donc ça, c'était très très bien, parce qu'en fait, en termes de réseau, ça élargissait complètement le spectre par rapport à ce que je connaissais, sur des questions d'outillage, en fait. Et puis, la dernière étape, c'est quand on a réfléchi à ce qu'allaient devenir nos données une fois qu'on aurait fini. Et donc, c'est là qu'intervient la MSH, puisque après pas mal d'errances, notre projet a été hébergé par la MSH pour la partie valorisation. Et ça a fait suite à un échec
Donc on avait de l'argent pour que quelqu'un s'occupe de monter un site web. Sauf qu'on s'est rendu compte, trop tard, qu'on n'était pas capable d'expliquer clairement ce dont on avait besoin, parce qu'on ne connaissait pas assez le langage des gens qui étaient capables de fonder de créer un site web qui correspondait à nos besoins. On savait les expliquer avec nos mots à nous, et l'informaticien en face, il ne savait pas les comprendre avec ses mots à lui. On n'a pas réussi à se parler, puis quand il a fini par comprendre ce qu'on disait, il a dit « mais c'est trop dur, ça ne marchera jamais ». Et donc, on est arrivé à la MSH, et à la MSH, on nous a dit « nous, c'est notre métier, bien sûr, on a des solutions ». Là, vous êtes trompé, là aussi, mais on va rattraper et le résultat est très satisfaisant pour ce qui est de l'ingénierie, pas encore satisfaisant de notre côté parce qu'on est, voilà, comme je dis, on est à la marge de plein de trucs en termes de l'égalité de ce qu'on a fait. Et du coup, on peut pas donner toute la publicité que ça mérite, mais j'espère bien pouvoir m'y consacrer un petit peu. Pourquoi je vous montre ces trois étapes? C'est parce que clairement, dans ce projet-là, il a manqué un élément d'ingénierie de la recherche. C'est-à-dire qu'on était bien secondé par le service de la Valo pour ce qui était du montage du projet. C'était Eric Bricou qui m'avait accompagné, c'était super clair, j'avais pas fait une seule addition, c'était très très bien. Mais après, j'étais seule avec mon équipe, moi je suis chercheur, et mon équipe c'est des chercheurs. Et donc quand on a fait une base de données, on l'a fait comme des chercheurs, alors qu'en fait c'était des livres, il aurait fallu un documentaliste. Quand on a voulu faire un site web, on a parlé comme des chercheurs à un informaticien et il aurait fallu un traducteur, un interprète, ça ne marchait pas. Et en termes d'organisation du travail, je me suis rendu compte que moi, maître de conférence, je me retrouvais à faire de l'ingénierie de la recherche et j'avais pas le temps et je ne savais pas le faire. Et je pense qu'on aurait gagné à recruter quelqu'un qui aurait été à la fois compétent en gestion de projet, c'est-à-dire qui aurait dit « attention, vous voulez faire une base de données, c'est quand? C'est dans 18 mois, ben là il est temps qu'on s'y mette ». On a démarré trop tard sur ces questions-là. C'est ce qui nous a retardé dans la recherche elle-même. Et puis, quelqu'un ouais, qui se serait plus occupé de cette dimension-là d'ingénierie, c'est-à-dire à cette étape, arrêter d'inventer l'eau tiède. Il faut qu'on contacte tel spécialiste, par exemple, de l'interopérabilité ou tel spécialiste de la qualité des images parce que les chercheurs font des clichés n'importe comment, ils ne vont pas être utilisables. Ou bien un tel qui va venir faire une présentation sur des questions juridiques, comme ça va être blindé une fois pour toutes, et on ne se retrouvera pas à la fin du projet à aller rechercher des informations d'il y a 2 ans qui seront de toute façon impossibles à réunir. Et ça, en fait, je ne savais pas qu'on devait le faire, maintenant je sais, mais je ne veux toujours pas le faire. Ce n'est pas du tout mon métier, ça m'emmerde, et puis surtout je pense que ça prend sur un temps qu'on ne peut pas consacrer à la recherche. Or, la recherche, c'est souvent un travail très fastidieux et on sait bien qu'on va avoir un résultat au bout d'heures et parfois de journées de travail qui ne semble pas extrêmement fécond. Donc, c'est important qu'on puisse avoir ce temps très, très long de la recherche et que le temps du chef d'équipe ne soit pas phagocyté par des tâches qu'en plus, on ne fera pas bien. Alors, évidemment, le problème, c'est que dans beaucoup d'équipes, il n'y a pas de personnel compagnon de la recherche qui soit statutaire, c'est-à-dire qui soit présent à la fois au moment où on a l'idée du projet et à la fois pendant toute la durée du projet, des personnes vers qui on pourrait se retourner en disant « bon, ben alors, voilà, comment je fais cette tâche-là, à ton avis, il faut programmer 18 mois ou ça, c'est plutôt un truc sur 4 ans j'ai besoin de faire un site web, je me débrouille tout seul ou tu vois quelqu'un qui peut m'aider à formuler ma demande d'une manière compréhensible Dans les labos de sciences humaines, on n'a pas toujours.
En plus, vous êtes dans un labo où il n'y a pas beaucoup de projets, collaboration ou autre. Forcément, les personnes, même qui sont les gestionnaires, hein, si on peut faire le parallèle avec ça, ne voient pas beaucoup ce genre de cas. Et donc, forcément, si ça arrive une fois, on doit être... il faut se charger des recrutements, et se charger de la comptabilité, et se charger des réunions de suivi avec les collaborateurs, et se charger de toutes ces choses-là. Et effectivement, quand on est chercheur et que c'est le premier projet de recherche, c'est compliqué. C'est vrai que c'est important de prévoir ça quand le labo n'a pas des personnes qui ont déjà vu ça beaucoup de fois, qui l'ont fait par ailleurs. Parce qu'il y a des laboratoires un peu plus gros.
Mais il faut avoir des ressources. J'ai eu l'occasion d'expertiser récemment des projets dans le cadre d'un labex, donc des structures quand même qui sont vraiment grosses, mais ça restait quand même des lettres et sciences humaines. Et j'ai été très surprise de voir que ils repartaient de zéro comme moi. C'est-à-dire que, ils avaient un super projet de numérisation et de mise en ligne d'archives. Et ils recrutaient comme ingénieur d'études un gars qui vient de soutenir sa thèse. Donc j'ai dit, mais il est peut-être très très bon sur l'objet, mais il a quoi comme compétence d'ingénierie? Ben, il n'en a pas. Eh ben, il ne va pas pouvoir faire le travail. C'est-à-dire qu'à la fois, il va être frustré parce qu'on lui demandera de rentrer des métadonnées au lieu de lui demander de réfléchir sur les objets, comme docteur. Mais en plus, ce n'est pas sûr qu'il saura très bien faire les choses, parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais réfléchi à ces questions d'archivistique et puis des questions de normalisation de données. Le chercheur, il se les pose dans la mesure où ça facilite son travail. Mais on le sait tous, on a des méthodes de travail différentes. L'important, c'est qu'elles soient efficaces pour nous. Mais elles ne sont pas normées. Moi, je ne prends pas les normes AFNOR quand je me demande comment je vais ranger mes fichiers sur mon Mac.
Évidemment. Mais c'est vrai qu'en sciences humaines, ce n'est pas dans les mœurs encore. Il y a un labex à Tours qui est en sciences dures. Ils ont embauché une personne pour faire toute cette ingénierie-là. C'est-à-dire qu'il y a une personne en charge de suivre tout ce qui est com, tout ce qui est budget, et toutes ces choses-là, les partenariats, les autres équipes qui sont investies. Ils ont ça. Ils ont prévu.
Moi, si je peux porter un éclairage peut-être un petit peu différent, je pense que effectivement, quelque chose qui est évident, c'est que les personnes que l'on va recruter sur des projets de recherche contribuent à faire ce travail d'accompagnement du projet et les comptes rendus de réunion dont vous parliez, le suivi, les contacts. C'est pour des jeunes chercheurs qui sont embauchés sur des projets de recherche aussi le moyen de se constituer un réseau, donc c'est extrêmement utile. Et puis effectivement, à la limite même d'apprendre comment monter le projet suivant, dont c'est peut-être eux à un moment ou un autre qui seront porteurs. Donc ça, c'est très formateur en soi, quoi. Et c'est vraiment utile. Et puis il est bien évident que comme chercheur dans les labos, on peut pas tout faire. Et si on monte un projet et qu'on garde tout à sa charge, on n'y arrive pas, quoi. En revanche, sur l'instrumentation de la recherche et le rapport à ce que tu as appelé ingénierie, parce que l'ingénierie, elle peut être sur le montage du projet lui-même, sur sa gestion en cours avec tous les problèmes que Émilie venait d'évoquer de contrats d'embauche, de gestion financière et autres. Et puis l'instrumentation directe de la recherche qui sont plus liées à la publication des données, etc. Il me semble que de plus en plus, en tout cas, on même si c'est pas tout à fait dans la culture des SHS, de plus en plus, c'est malgré tout intégré dans les demandes le plus tôt possible. On voit toujours des projets où ça ne l'est pas, évidemment, oui. Puis je pense qu'on en verra encore pendant de nombreuses années. Oui. Mais malgré tout, on voit aussi de plus en plus de projets où c'est intégré dedans. Moi, je ne monte plus un projet sans prévoir, là, en l'occurrence, on parlait de Solidar, on va produire de l'information spatiale, donc des données spatiales, dès le début du projet, on envisage la manière dont on va, pas nécessairement archiver de manière définitive, mais en tout cas, rendre publiques ces données, ou en tout cas cataloguer ces données à un moment ou à un autre, parce qu'on a une expérience qui fait, justement par les réseaux dont on parlait tout à l'heure, qu'on sait d'une part que c'est obligatoire, puisqu'on produit de la donnée sur de l'argent public, parce que là, en l'occurrence, on est vraiment dans ce cadre-là, et on n'est pas dans le cadre des bases de données que tu évoquais, que tu vas chercher dans des fonds privés aussi, donc ça c'est autre chose. Mais quand on produit des données sur des fonds publics, eh bien, on est censé les rendre, les cataloguer, les rendre, les publier, en fait, quoi. Donc ça, on l'envisage dès le début du projet et on l'inclut dedans. Donc effectivement, les personnes qu'on va recruter, eh ben, il y a une partie de leur tâche qui relève de ça, de l'état de données, de catalogage et d'autres, parce qu'il faudra bien que tout ça soit publié. La com, c'est encore une autre affaire, parce que ça, on ne l'anticipe pas toujours et qu'on ne sait pas forcément bien le faire non plus. Voilà, il y a ce travail-là. Sur la construction des bases de données qui nous sont utiles, qu'elles soient en ligne ou pas, la plupart du temps en ligne maintenant, mais là encore, ça dépend des projets, des outils de travail durant les projets, etc. Je pense que là aussi, les choses évoluent. Et pour voir dans la discipline que je connais, tu vois, dans la sphère qui est la mienne, je pense que les jeunes chercheurs qui ont appris à travailler de cette manière-là maintenant ne fonctionneront plus de cette manière-là. Et ils envisagent maintenant de contribuer directement. C'est-à-dire que c'est devenu leur propre outil de travail. Donc nécessairement, ils ne le voient plus de la même manière. Tu vois, et ça, je crois que c'est vraiment important. Alors ça passe par de la formation initiale, hein, c'est clair. Mais les fameuses humanités numériques dont on parle, elles n'aboutiront jamais si ce n'est que un dialogue entre des chercheurs d'un côté et des, peu importe, des prestataires techniques de l'autre. Ça. Enfin, je pense qu'on n'aboutira jamais à des vraies humanités numériques, si c'est ça dont il s'agit, si on garde cette distinction. Il faut absolument, enfin moi je suis convaincu, et puis c'est ce que l'on fait depuis maintenant de nombreuses années, en tout cas en archéologie là, c'est qu'il faut que les chercheurs qui arrivent contribuent eux-mêmes aux outils. Ça ne veut pas dire qu'on continue à faire des archéologues et pas des informaticiens ou des autres, on est bien d'accord là-dessus. Mais il n'empêche qu'il faut qu'ils s'approprient les outils pour pouvoir travailler avec et pour pouvoir préciser exactement ce qu'ils veulent. Quoi. Et ça, ça change considérablement. Quoi. Enfin, franchement, on voit beaucoup de projets sortir qui... soit en termes de production, des projets qui se terminent, soit en des projets qui démarrent et dans lesquels ces outils-là sont complètement inclus dès le montage du projet.
Ça a très très vite évolué.
Et ça évolue très vite. Hein. Y compris l'utilisation d'outils de toutes sortes de plateformes collaboratives d'une manière ou d'une autre, où les gens se posent même plus la question. Quelque chose qui est très, très révélateur en général, c'est vrai dans les publications, dans les articles, c'est vrai aussi dans les sujets de master ou de thèse, c'est le moment où disparaissent du titre des articles ou des sujets les outils eux-mêmes, parce qu'ils sont complètement intégrés.
Oui, c'est ça. Ouais, ah. Ouais.
Et à partir du moment où ils sont intégrés, bah, c'est qu'on se pose plus la question. Ouais. Et là, on a franchi un pas, quoi. Alors que quand on dit qu'on va faire, on va travailler sur ça avec une base de données, c'est que c'est pas complètement intégré.
Donc c'est facile à mener une collaboration. C'est le message, hein.
Ah bah une collaboration, oui, c'est facile.
Moi ça me semble pas. Parce que moi je ne le fais pas. Ça va, moi.
Ça dépend en fait des projets. Il y a des projets qui se prêtent tellement à un travail collaboratif que ça pose pas réellement problème. La dimension un peu administrative et d'organisation, elle est lourde, mais on n'a rien sans rien. Nous, le projet MAM, c'était un projet absolument énorme. Ça n'aurait jamais été fait par un chercheur tout seul, parce que c'était pas faisable. Mais à 8, et puis bientôt 12 ou 15, on l'a fait. Donc il y a eu des moments où c'était vraiment lourd, parce que en gros, reposer sur mes épaules à la fois les négociations pour le site, l'organisation d'un colloque, la gestion des conflits dans l'équipe, et puis les bilans à rendre à l'ANR tous les 6 mois, en plus de ma recherche. Mais en même temps, on est super content de ce qu'on a réussi à faire collectivement. Et là, j'ai assisté à 2 HDR en un mois, et les chercheurs ont tous dit « Ah, c'est bien, on était dans ce projet. Mmh. » Donc, c'est une date pour... dans un champ de recherche, c'est une date. Ça ne veut pas dire que j'envisage ma recherche toujours sous l'angle de la collaboration.
Ah non.
Il y a des moments où ce que j'ai envie de faire, c'est, franchement, il n'y a aucun intérêt à le faire de manière collective.
Et puis des fois, c'est vraiment, oui, c'est individuel, mais il ne faut pas que ce soit uniquement des collaborations non plus pour vos travaux. C'est peut-être pas ce qui est plus utile.
Par contre, une collaboration, je pense que ce n'est pas compliqué en soi, mais le portage d'un projet... que c'est comme ça que ça s'appelle, même si c'est pas très joli, ça demande quand même une énergie particulière parce que la collaboration, il faut l'animer d'une manière ou d'une autre. Et que ce travail-là, c'est bien le chercheur qui le fait. Quoi. Les relances des collègues, etc., ça, c'est très chronophage. Quoi. Et ça, c'est ce qu'il faut pas...
Non.
C'est pas pour ça que c'est compliqué, mais c'est très chronophage. Quoi.
Oui, c'est ça. Il faut avoir envie... sur un programme de recherche, d'animer une équipe
d'animer,
de chercheurs.
Ouais, c'est
ça veut dire, très clairement, à certains moments, de leur impulser l'énergie de s'y remettre. Mmh.
De les tanner, quoi, faut le dire.
Non, mais des fois, il y a du découragement aussi. Oh.
Quand il faut, surtout dans une ANR où effectivement il y a des rapports tous les 6 mois, qu'il faut des textes et qu'il
faut
des...
Il faut du
voilà,
contenu.
Il faut aller chercher quand même.
Ouais,
parfois.
Ouais. Bon. Il faut être un peu tenace, persuadé. Et justement,
pourquoi il
veut
la fin après l'ANR? Est-ce que la collaboration continue? Est-ce que c'est plus formalisé?
Je pense que ça dépend vraiment des contours de l'équipe. Comme nous, l'équipe, elle préexistait au programme. Alors, Oui, on a d'abord plein de chercheurs de l'équipe. On continue à faire résonner ce travail-là dans leur publication pendant au moins 2 ans, parce qu'en fait, ils s'étaient plongés dans un corpus et ils étaient loin d'avoir fini de puiser tout ce qu'il y avait à prendre. Donc, ça résonne encore. Moi, en tant que porteur du projet, j'ai quand même à cœur que ces résultats, notamment les résultats qui sont sur le web, non seulement restent visibles, mais en plus soient un peu enrichis, parce que c'est un peu dommage. Le web, il est quand même pas fait pour être une... C'est pas une bibliothèque, justement, où on va stocker un livre qui a été fait à telle date, et puis le livre va vieillir doucement, il restera valide, sauf si on décide de faire une réimpression. Le web, c'est supposé évoluer, continuer à vivre. Et ça, continuer à servir un programme une fois que l'équipe s'est dispersée et que soi-même, on est parti sur d'autres thématiques, c'est pas complètement évident. Alors que j'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées pour améliorer ça. Par exemple, le fait que ce soit écrit que le site est en cours de construction, ça me gêne un petit peu, là, je vois. c'est pas très compliqué. Non, mais j'ai plein d'autres projets, mais effectivement, je n'ai pas encore trouvé dans mon planning parce que c'est aussi le défaut de ces programmes financés. C'est-à-dire qu'on est financé sur 3 ans. Au bout de 3 ans, on a rendu le paquet, on a un petit coup de fatigue, et puis après, on se relance sur d'autres choses. C'est moins gênant quand on a fait un travail personnel. On a fini un livre, on l'a capitalisé d'une certaine manière. On fait autre chose, mais des gens vont encore nous parler de ce livre, et puis on réfléchit sur nos autres livres à propos de celui-là. Sur un projet collectif, je me demande si on n'a pas un peu tendance à claquer la porte au bout d'un moment.
Ouais, moi, ça me fait penser à des expériences on sort là d'une ANR avec trois autres collègues, on était 4 du laboratoire à participer à une ANR dans laquelle le labo n'était même pas partenaire, puisque en fait ils avaient décidé dans le montage les collègues avaient décidé dans le montage de faire un partenariat restreint pour des questions purement administratives pour le coup, mais ce qui n'empêche pas qu'en revanche le réseau était très très large et qu'on tenait beaucoup plus que 3 labos. Et en fait on a largement participé à ces travaux. Cette ANR, elle a duré 4 ans, c'était un projet long. Quand je dis on en sort, c'est parce qu'elle se termine officiellement là et qu'il faut rendre des rapports en janvier. Mais en même temps, on a encore une année, un programme d'une année de travail en commun pour arriver à rédiger la publication qui doit sortir à la suite de ça. La manière dont ça s'est passé, le travail qui a été mené pendant 4 ans, d'évidence donnera suite à d'autres choses, à d'autres collaborations. D'évidence, si on a l'un d'entre nous décide de monter un projet sur quelque chose, il va aller chercher ses collaborations dans ce réseau-là. D'abord, avant d'aller les chercher ailleurs. Donc ça, c'est extrêmement riche, quoi. Et en fait, cette ANR-là, qui s'appelle Transmondine, qui était portée par une géographe qui s'appelle Lena Sanders à Paris, elle arrive à la suite, avec un peu un intervalle entre les deux, de 2 programmes précédents. L'un qui s'est fait en 2 temps avec une ANR et puis juste auparavant avec ce qui s'appelait les ACI, qui étaient les actions concertées incitatives du ministère avant que l'ANR existe, mais sur le même sujet, qui s'appelait Arcadine, et qui, ce programme-là, qui a duré donc 7 ans en fait, avec les deux programmes de 3 ans, une année entre les deux, avec à peu près le même consortium justement de chercheurs, lui-même venait à la suite de plus de une ACI et un projet européen qui s'appelait Archéomédès. Et donc en fait, si on met ces choses là bout à bout, c'est 20 ans de recherche, alors pas avec exactement les mêmes personnes à chaque fois, mais avec un réseau de partenaires qui s'est vraiment constitué, qui travaille sur sur les thématiques des dynamiques d'occupation du sol d'un temps assez long, qui constitue le réseau des chercheurs qui travaillent sur ces questions-là en France, quoi, très clairement, avec des productions scientifiques avérées, etc. Et donc c'est aussi, d'une part, quand on arrive et qu'on intègre ces réseaux-là, très satisfaisant de s'y insérer, et puis effectivement, s'il y a d'autres projets qui se montrent, dans ce périmètre-là, quoi.
Mais ça me donne une idée, je me dis que finalement, pour limiter l'atomisation de ce site web qui est la fin d'un programme ANR, je pourrais remplacer ce site est en cours de construction par que sont devenus les gens de l'équipe MAM. Parce que de fait, À la suite de ça, il y a eu le volume 19e siècle de l'histoire des traductions en langue française, publié par Verdier, qui est un truc évidemment que personne ne lira, sauf les spécialistes. Mais les chapitres qui ont été écrits sur les traductions en littérature pour la jeunesse, et particulièrement chez MAM, c'est un très grand traducteur, ces chapitres-là sont vraiment nourris du travail de l'équipe. Il se trouve que moi, je n'ai pas collaboré parce que j'étais morte de fatigue, mais tous les autres chercheurs du projet MAM étaient dans le projet HTLF, qui était une grosse ANR parisienne. Donc, bah oui, c'est vrai. C'est pas. Ça mériterait d'être dit aussi de manière explicite. Ça nourrit en profondeur les recherches ultérieures. Et cette fonction de réseau, je pense que c'est un truc qui pourrait améliorer notre site et qui lui donnerait un peu moins l'allure d'un chantier abandonné.
Sachant qu'en plus, c'est un outil collaboratif que vous avez choisi.
Oui, il rend ça possible. Voilà, oui.
Tu peux continuer à être alimenté par les chercheurs qui ont participé en fonction de leur temps, de leur enthousiasme, des découvertes qu'ils peuvent faire et continuer justement à servir.
Oui, par exemple, on avait au début, on souhaitait rapatrier des trucs de Gallica. Gallica avait numérisé beaucoup de livres MAM, mais ils étaient absolument fondus dans la masse des trucs de Gallica. Et Gallica n'avait aucun projet d'estampiller leur collection jeunesse comme collection jeunesse. Donc c'était invisible pour l'internaute de base, alors qu'on sait que Gallica est très consulté par des gens qui ne sont pas des savants. Et nous, on voulait viser aussi ces gens qui ne sont pas des savants. Et donc on s'était dit, on va aller aspirer leurs données. Puis finalement, on ne l'a pas fait parce qu'on avait quand même plein d'autres chantiers. Aujourd'hui, ça y est, ils sont passés à ça. C'est-à-dire qu'ils sont en train de tamponner leur collection avec des systèmes de tags et de facettes. Et on pourrait tout simplement le dire et dire, bah voilà, nous, on a recensé tout un tas de livres MAM qui étaient conservés dans des fonds accessibles, mais dont certains ont été pillés, par exemple. On a photographié tous les livres qui étaient dans l'entreprise MAM, qui étaient mis en liquidation judiciaire en juillet 2011 et qui a été pillé à l'automne 2011. Donc les livres ont disparu. Nous, on les a photographiés. Et on pourrait dire, ben voilà, il n'y a pas tout, parce qu'il y a ceux de la BNF qui ont été photographiés, évidemment, plus soigneusement que nous, ce qu'on a fait. Et on met un lien, une fenêtre. Et puis, on peut même prendre leur navigateur embarqué. Donc, ça pourrait être mieux que ce que ça n'est.
Oui, mais ça peut toujours.
Vous avez des questions, interrogations?
Une question par rapport au livre dans le projet Région.
Oui.
En fait, on s'est convaincu qu'entre le porteur et la région, nous, les partenaires, donc il n'y a pas de
problème. Non. Et après, ça dépend des partenaires. Il y a beaucoup de projets où donc, on demande des acteurs sociaux et économiques, on affiche des partenaires qui ne le sont pas vraiment. C'est véritablement. On dit, ils sont là parce qu'ils sont intéressés par la recherche. Mais ça ne veut rien dire, en fait. Est-ce qu'ils sont vraiment partenaires? Et si vraiment c'est le cas, il faut qu'on fasse une collaboration établie pour dire qu'on travaille vraiment ensemble sur un projet qui est celui qui est accepté par la région et qu'on a des résultats qu'on espère en commun. Mais il y a beaucoup de cas où, quand on le propose, on dit oui, mais non, parce qu'ils sont juste intéressés par les résultats, ils voudront juste les voir à la fin. Donc, c'est difficile à mettre en place parce qu'il faut aussi une volonté du chercheur de le faire. Mais ça peut faire assez facilement après, hein, s'il y a la volonté de chacun et s'il y a vraiment un travail en commun. Sinon, non, il n'y a rien qui nous lie et avec les autres, les non-académiques et les académiques du projet. Rien. Sauf qu'il faut, déterminer que les résultats ont été faits par celui qui porte le projet. Si un des partenaires il prend ses résultats et les utilise à autre chose, que le porteur s'en aperçoit, il faut qu'il démontre que ses résultats lui appartiennent. Et là, on part dans une bataille juridique qui n'est pas très sympathique et qui peut être très très longue surtout, et en plus on peut les perdre parce que c'est très difficile de démontrer que ces résultats-là nous appartiennent. Sauf si le chercheur remplit des cahiers de laboratoire, mais ce qui n'est pas le cas en sciences humaines. Parce que beaucoup de chercheurs ne le font pas, estiment que ce n'est pas utile ou n'ont pas la capacité de le remplir parce que ce n'est pas adapté. Qu'importe, il y a plein de raisons qui font que les laboratoires ne sont pas remplis par les sciences humaines. Et du coup, il est très difficile de démontrer la paternité de ce qu'on a fait. Donc, il vaut mieux faire un accord de collaboration. Parce que même pour les partenaires,
c'est aussi bien d'être affiché dans ce partenariat. C'est une reconnaissance autant pour eux que pour nous, finalement. Donc, les projets de la région sont problématiques à ce niveau-là. Enfin, ils peuvent l'être. Il y a beaucoup de fois où ça se passe très, très bien. Et où souvent, avec les autres institutions, il n'y a aucun problème. Et souvent, les non-académiques non plus, ils demandent à voir les résultats, mais ils ne les exploitent pas. Ils ne veulent pas les exploiter, ils veulent juste voir les résultats. Mais dans l'idéal, il faudrait effectivement... Mais avec une convention qui encadre l'ensemble du projet, finalement. Parce que même la région, elle encadre peu de choses. Elle nous donne juste de l'argent et on doit lui faire des justificatifs. On ne parle pas de propriété des résultats, de confidentialité, on ne parle de rien de tout ça. Donc finalement, si on a envie vraiment de régir ce qui va être fait, il faut y penser en amont, il faut effectivement le faire en début ou même en milieu de projet. Après, si on s'aperçoit qu'au début on a raté le coche, enfin, c'est pas grave, on peut se rattraper durant le projet. Mais oui, là, effectivement.
D'autres questions ?